Et donc, à l'issue de la conférence, il sera possible d'acheter l'ouvrage pour le lire et d'être dédicacé par les auteurs. Donc, ce soir, on va les écouter pendant environ une heure. Je souhaite que, donc, on puisse les écouter, je dirais, calmement pour vraiment essayer de la parole. Il y aura une heure de débat. Et donc, on va essayer d'établir quelques règles du jeu pour que le débat se produise d'une bonne manière. Donc, un débat, d'abord, pour que ce soit positif, pour que tout le monde reste courtois, et que, comme on est assez nombreux, que les questions soient courtes pour pouvoir partager la parole dans la salle. Ensuite, pour que le débat ait lieu, il est souhaitable soit de poser une question, soit de donner des arguments, mais pas de faire une déclaration, une proclamation de foi, puisque chacun peut avoir des choix, certes, mais c'est pas l'objet d'un débat. Le débat, c'est vraiment pour qu'on puisse échanger des informations. Et on est heureux d'avoir pu aborder un sujet qui fait débat. Et on espère que ce débat sera riche et passionnant. Donc, ce sont ce soir les amis du Vidéatome et la chaîne, mais aussi on va les neurones qui sont associés pour organiser cette manifestation. Et je vous souhaite à chacun la bienvenue. Donc, maintenant, je vais tout de suite donner la parole à leur hôte, qui veut bien commencer. Donc Jacques Fosse a pendant 25 ans tenu la chaire de sciences nucléaires au CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris. Donc maintenant il est professeur émérite et voilà, Jacques, tu as toute la parole.
Bien, merci beaucoup. Donc pour commencer, effectivement, on a été m'a dit que j'étais professeur au conservatoire, c'est toujours d'ailleurs une partie de mes cours, en particulier ici au centre de Bagnols-sur-Cèze, qui dépend de l'entreprise Fillon. En particulier le cours cycle des combustibles nucléaires pour le CNAM. Et donc nous avons avec Yves de Saint-Jacob en fait une collaboration qui est déjà relativement ancienne, il se présentera tout à l'heure, hein, c'est un journaliste. Et on a beaucoup discuté énergie depuis des années. Et on s'est posé la question après l'accident de Fukushima, de savoir si effectivement on pouvait sortir du nucléaire. Mais la question qu'on s'est posée, c'était pas est-ce que la France peut sortir du nucléaire, est-ce que l'Europe peut sortir du nucléaire. On peut faire des réponses diverses et variées, on est dans les pays riches quand même, mais est-ce que la planète peut sortir du nucléaire? Parce que ce qui nous intéresse évidemment, c'est de se placer au niveau planétaire et pas au niveau de quelques pays. Et donc, à partir de là, on a rédigé effectivement ce livre dont Étienne Bernard vient de vous parler. Et je voudrais simplement mettre quelques planches importantes, et puis après, donc évidemment, parler de la situation de la France. Mais tout au long du discours que vous allez entendre, on se place évidemment au niveau donc de la planète et globalement de l'humanité. Alors ce siècle, c'est un siècle dans lequel on est rentré il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, que le temps passe vite. Effectivement, les salades ou les défis sont l'énergie et l'eau douce. Mais les deux, en fait, sont liés, comme on va le voir. Alors l'énergie est indispensable à la vie et au développement économique. Vous voyez, l'homme, en fait, pour vivre, a besoin de 2,7 kWh. Et compte tenu de ce qu'on était dans les années 2000, ça fait 1,35 gigawatts. Je vais dire un mot sur les unités dans un instant. Et en réalité, vous voyez, on consomme en gros pour le besoin de 0,6-17, ce qui fait jamais 6% de la consommation totale 2005. Alors, le point d'interrogation était pour les unités. L'unité officielle, c'est le joule. C'est pas une unité qu'on utilise dans la vie courante. Dans la vie courante, on utilise plutôt le kilowattheure, parce que c'est ce qu'on fait l'EDF, par exemple. Et au niveau de la consommation, en gros, individuelle, par an, on est à ce qu'on appelle la tonne équivalent pétrole, c'est-à-dire en fait, qui fait en gros 128 kWh. Évidemment, si on se passe au niveau de la planète, évidemment, on est en millions et en milliards, c'est-à-dire on est en mégacètes et en gigacètes. Ce sont les unités qu'on va retrouver dans un instant. Donc, je disais, voilà, juste pour survivre, on va dire, l'homme a besoin de 27 kWh, mais vous le savez, dans les pays riches, comme les nôtres, en fait, on consomme beaucoup plus que ça, parce qu'un Français consomme 150 kWh par jour. Ça veut dire qu'il consomme 3% de CET, c'est-à-dire la consommation d'énergie totale, alors qu'en termes de population, on est que 0,87%. Et aux États-Unis, c'est encore pire, ou mieux, je ne vais pas m'en tenir, mais plutôt pire, 260 km par jour. 28%, c'est-à-dire le quart du total, alors qu'il représente que 4% de la population. C'est lié, évidemment, à la santé. Vous voyez, pour prendre qu'un seul critère que vous voyez là, l'espérance de vie en France, elle est comme vous voyez ici, pour l'homme et la femme. Et c'est aidé dans les pays en voie de développement, c'est évidemment beaucoup, beaucoup plus faible. Et vous savez que ça augmente évidemment une préférence de vie beaucoup plus. C'est une chose que je refais souvent. Et malheureusement, pour changer nos préférences à nous, si on gagne un quart d'heure d'espérance de vie supplémentaire à chaque heure qui passe, c'est-à-dire si on met la 2 heures comme le dit Étienne de la supérieure, on va gagner une demi-heure. Donc l'espérance de vie devient cette demi-heure. Mais rien pour donner un exemple, quand moi je suis né, j'avais 53 ans d'espérance de vie, c'est-à-dire je ne voyais pas dans le demi. Et donc vous voyez qu'on est en 2012 et j'ai touché du bois pour l'instant, donc en bonne santé, et c'est vrai donc pour la plupart d'entre nous, l'espérance de vie effectivement augmente et est liée évidemment à cette énergie. L'eau douce c'est la même chose, indispensable à la vie au développement économique, vous voyez, nos besoins augmentent en fait de 75 milliards de mètres cubes par an, tout simplement parce que la population dans un instant augmente aussi. Or, on a à peu près épuisé tout ce qu'on pouvait avoir de l'eau douce sur la planète, et la seule solution pour l'avenir, c'est de saler nos mers. Et vous voyez, ça rejoint effectivement l'énergie, c'est 5 kWh par mètre cube. Vous savez que par an, si vous voulez posséder des combustibles fossiles, c'est du nucléaire ou des éoliennes, vous voyez que ça fait quand même un aspect considérable, rajouté évidemment au reste. Alors, l'usage de l'énergie, on les connaît, les petites chaleurs transport. Et donc pour nous, puisqu'on a passé en 2000 il n'y a pas longtemps, ça peut être effectivement notre référence. Et vous voyez ici, on a multiplié donc la consommation d'énergie primaire en 30 ans, dans ce siècle, par un facteur 10, ce qui fait de 35% par an. Alors ce qui est lié à l'évolution de la population, bien sûr en partie, mais pas seulement, puisque vous voyez que même si on est passé de 1,5 à 6 milliards entre 1900 et 2000, ça ne fait jamais que plus 1,48% par an. Alors le 30 octobre 2011, on a tous entendu ça parce que c'est très très médiatisé, on a franchi la barre des 7 milliards de terriens. Or, on est franchi de 6 milliards et demi le 19 décembre 2005. Prenez votre calculatrice, vous regardez, ça fait un delta de 227 000 par jour. Alors, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Eh bien, on s'aperçoit que, ça on trouve ça sur Internet facilement, mais hier ce matin à 5h, on était 38 millions de plus que ces 7 milliards déjà, et ça fait 232 000, c'est-à-dire c'est pas un delta qui diminue, c'est un delta effectivement qui augmente. Chaque jour, il y a 402 000 naissances sur la planète, il y a 170 000 décès, ça vous fait un delta de 232 000 personnes, tous les jours, il y a 232 000 personnes en plus. Donc sur la planète. Et vous voyez que ces naissances, en fait, ces 400 000 naissances, elles sont à plus de 90% dans ces pays en voie de développement, Asie, Afrique et Amérique latine. Il faut en tenir compte. Alors on s'est interrogé, lorsqu'on a fait le livre, évidemment, on s'est projeté sur 2050, et puis on a regardé, alors les prévisions les plus, je ne sais pas si faut dire optimistes ou pessimistes, c'était de dire on fera au moins 9 milliards en 2050. Et je discutais avec l'équipe en lui disant, moi, quand je regarde un peu les tendances, on serait quand même plutôt à 10 milliards, parce que quand vous regardez les courbes, en fait, vous voyez que pour être 9 milliards en 2050, il faudrait une diminution absolument drastique, ce qui est bien concevable, vraiment, si on laisse. Même si on met un plateau, je veux dire, si on prend une barre horizontale, on serait 10 milliards et demi. À 10 milliards, vous voyez qu'il faut déjà baisser un petit peu et baisser beaucoup pour être 9 milliards. Donc on a mis du coup dans notre bouquin effectivement 10 milliards au total. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs quand vous regardez ça, alors on ne voit pas très bien le signe, mais si on avait une règle, on pourrait le voir, c'est que là il y a quelques jours, on a dit que maintenant tout le monde était d'accord pour dire qu'en Afrique, il y aurait 2 milliards d'individus en 2050. Ben là, en gros, en Afrique, il y a un tout petit peu en dessous de 2000. Donc vous voyez que je suis loin d'être ou pessimiste ou optimiste selon que vous preniez les choses. Et alors évidemment en termes énergétiques, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on s'aperçoit que ben, justement là où il y a 90% de connaissances, parmi les populations les plus importantes, Amérique latine, Asie, Afrique, c'est là où aujourd'hui la consommation d'énergie par habitant est la plus faible. Et évidemment c'est ces pays-là qui vont consommer de plus en plus d'énergie. Alors ça c'est une image que je tiens de mes collègues du CNAM, le professeur Roumard, se rappelait d'une phrase de La Fontaine qui en avait une grande histoire à l'époque. À partir de 2005, on a produit sur la planète plus de transistors que de grains de riz, c'est pour moins cher. Et comme ça double tous les deux ans, donc vous voyez qu'on est aujourd'hui en 2012 moins du coup. Alors c'est là c'est assez intéressant parce que c'est sûr que les pays en voie de développement, qu'on peut dire, qui peuvent être un petit peu plus symbolisés par les étudiants vont avoir tendance à rejoindre le monde technologique dans lequel on vit, et c'est normal, c'est justifié, et je ne vois pas ce qui pourrait nous faire dire le contraire, et donc tout ceci, évidemment, va consommer beaucoup d'énergie. Alors ça, c'est une planche sur laquelle je ne veux pas passer beaucoup de temps, simplement pour montrer quand même que c'est assez facile de diviser les 7 milliards en 5 parties, vous voyez, ça fait 1 milliard 4 à chaque fois, et globalement, vous voyez, on fait partie nous, du cinquième de la population mondiale qui consomme, au contraire, 4,5, c'est le 4 cinquième de la consommation globale de richesse donc de la planète, hein, et les 4 autres cinquièmes ben, se partagent au cinquième direct. Or, évidemment, vous avez le secteur en voie de développement, le secteur en voie de fort développement, qui représente donc 2 cinquièmes, 40% du sol, et qui sont en croissance accélérée, et tout ça, évidemment, fait exploser, même déjà maintenant, hein, dans cette décennie qui vient de passer, la demande d'énergie. Et vous voyez qu'il y a 4 milliards d'individus qui n'ont pas d'électricité, ou pratiquement pas d'électricité, et qui sont vulnérables au manque d'eau, ou qui ont évidemment très 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 peu d'eau. 7 milliards sur les 7. Alors, des scénarios, il y en a une trentaine hein, quand on regarde. J'en ai choisi 3. Le premier, donc, dit ben, il n'y a pas de problème d'énergie en fait sur la planète, même dans l'avenir. Il suffit que ceux qui consomment beaucoup consomment moins. Et puis, on fait basculer ça sur le pays. Qui en consomme que. On va voir ce que ça. Ça va pas beaucoup aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. Le deuxième scénario, qui est en fait. Alors c'est ce qu'on a appelé dans le scénario du partage, c'est-à-dire. Alors le deuxième, c'est le scénario donc, réaliste, c'est celui dans lequel on vit depuis à peu près 15 ans, qui est une croissance, comme le siècle dernier, dans nos pays à nous développés, mais évidemment une croissance plus forte dans les pays en fort voie de développement. J'ai même été un peu pessimiste dans le calcul que j'ai fait, j'ai mis une croissance à 8% de 2000 à 2025, donc vous savez que ces pays ont fait plus que 10 en fait jusque-là, au moins la décennie qui vient de passer, et puis après je l'ai mis à 2,35 pour de 2025 à 2050. Et le dernier, bah, c'est le scénario qu'on appelle le scénario du 21e siècle, c'est-à-dire que bah, on fait comme le siècle dernier, 2,35 par an pour tout le monde, évidemment. Alors ça, je ne calcule les statistiques, ça fait 32 gigatètes hein, par an. Mais évidemment, ça veut dire que si on veut que ce pays se développe, il faut que nous fassions des efforts considérables dans l'économie d'énergie. Je n'ai pas dit que c'était impossible, mais c'est vrai. Alors vous voyez qu'effectivement, ça conduit à des chiffres qui sont assez impressionnants. On va se baser sur la même hypothèse 3, on va essayer de voir s'il est possible d'avoir 30 gigatètes en 2050. Parce que même pas la peine de discuter sur ces scénarios, vous allez voir qu'on va avoir du mal en fait à récupérer évidemment cette énergie. Le delta qui était de 950 ans, vous allez compter entre 20 et 50 en fait d'ici 2050. Alors voilà une étiquette que vous allez retrouver, c'est-à-dire que après, notre propos, ce sont tous les autres chapitres de la première partie du livre, c'est de trouver, en fait, de l'énergie, de développer les énergies au maximum pour essayer d'arriver à zéro. Alors les sources d'énergie, on les connaît, hein, vous mettez dans les feuilles et vous dites comment je fais pour trouver l'énergie. Alors vous trouvez un petit peu tout ça, l'eau, le soleil, le courant, le vent, la marée, la biomasse, la géothermie, la vapeur, l'énergie musculaire, évidemment, ça fait les animaux de trait aujourd'hui, on va voir que c'est pas grand chose, donc faut pas l'oublier, il n'y a pas besoin. Alors les sources d'énergie, ça c'est des commentaires qui sont intéressants, parce que ce qu'on remarque là-dessus, c'est que si on fait en gros un bilan à peu près d'aujourd'hui, on s'aperçoit que 85% des sources d'énergie aujourd'hui, 85% c'est dans les combustibles fossiles. C'est-à-dire ceux qu'il faudrait essayer de réutiliser représentent 85% d'aujourd'hui. Alors nous avons 8%, on a un peu plus, donc, il faut le nucléaire. On voyait tout à l'heure les utilisations, hein, tout à l'heure les greffiers transport, et vous voyez que, effectivement, qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Là, ils ont des fossiles, on les retrouve partout. Hein, et les voies de faire l'électricité, c'est là où on a les voies les plus nombreuses. Hein, donc, c'est là où c'est le plus diversifié. Alors, l'état des réserves, bon, on les connaît aujourd'hui. J'ai mis cette planche, je voulais insister surtout sur le mot rythme actuel, évidemment. Hein, parce que ça, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'à un instant donné, dans le monde, comme ça, une photographie des réserves, mais ça dépend du rythme. Hein. Vous voyez, les importations chinoises en pétrole, elles ont été multipliées par 6 en 10 ans. Hein. L'Arabie Saoudite a multiplié par 100 les exportations de pétrole vers la Chine en 10 ans. Donc voilà, ça veut dire qu'on consomme de plus en plus et ces chiffres-là sont valables à un instant donné. Bon, alors ça change pas beaucoup. En 2000, je disais il y a 50 ans, vous voyez, pour le pétrole. Alors, les réserves que vous avez là, évidemment, sont des réserves dites économiques, c'est-à-dire je creuse un trou, j'ai le pétrole fini. On va voir s'il y a d'autres réserves, mais là où, évidemment, c'est beaucoup moins économique. Mais donc, ces réserves économiques pour le pétrole, c'était 50 ans en 2000, c'est 42 ans en 2008, donc vous voyez, on est toujours sur la date de 2050, comme justement que j'ai choisi. Un peu plus pour le gaz, c'est beaucoup plus pour le charbon. Mais si on se met à inventer, les Allemands, par exemple, sont en train de rouvrir toute leur mine en charbon et aux limites, aujourd'hui, parce qu'ils sont faits du nucléaire, évidemment, ces réserves-là vont diminuer beaucoup plus vite que ça. Enfin, c'est une planche que j'ai ajoutée pour essayer, évidemment, de prognostiser un peu toutes les générations. Quand les bébés 2000 se feront leur 50 boulets et plus de pétrole, vous avez bien compris que c'est le pétrole économique. Quand ils prendront leur retraite, à deux points d'interrogation pour 65 ans, il n'y aura plus de gaz. Mais, bien sûr, planche suivante, il reste pétrole et gaz non conventionnel, les fils bitumineux, les sables statiques, les gaz de schiste, hein, dont on commence à beaucoup parler, qui représentent plusieurs centaines de gigatèques. Plusieurs centaines de gigatèques, c'est à peu près les 150 à 200 ans qu'on a vu tout à l'heure pour le charbon. C'est coûteux en énergie, en vente, et c'est vraiment exploité. Alors, il y a deux éléments importants, je ne vais pas insister dessus, mais c'est juste rapide pour mémoire, qui ont marqué la fin du millénaire, c'est le développement durable et le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto, vous voyez, c'est vraiment la fin hein, de ce siècle dernier, décembre 1999, 159 pays, qui se réunissent et qui s'engagent, vous voyez ici, à une réduction globale de 5% des émissions de GES, c'est-à-dire gaz à effet de serre, entre 2008 et 2012. Donc vous voyez, on est à la fin justement de cette période. Mais, dit-il, on n'est pas encore note que 55% des pays qui représentent 55% du volume total des émissions de CO2 en 90 signent le protocole. Et les pays, évidemment, les pays en voie de développement ne sont pas concernés, on peut leur demander de faire leur économie alors qu'ils ont besoin d'une aide. Enfin, en très longtemps, on n'est pas arrivé à cette barre des 55%. Et puis un beau jour, donc, vous savez, il y a encore des pays, donc il y a la ici qui n'ont pas fini, mais la zone de la Chine, ça commence à démontrer, comme le Canada, parce que les situations sont des deux choses, donc ils commencent à revoir sa signature. Mais un beau jour, donc, la Russie a signé et on a basculé, en fait, au-delà des 55%. Alors, ce qui est intéressant, j'ai juste gardé quelques planches là-dessus. Vous voyez, c'est, quand on regarde bien, vous avez ce qui a été fait, et puis vous avez le vœu pieux. Hein. Vous voyez, les ingénieurs avaient dit, bon, allez, entre 90 et 2002, on va essayer de faire moins de 7%. En fait, on fait plus 7,7. L'Europe des 15 avait dit, on va faire moins 8, on sait plus quoi. La Russie n'est pas concernée, elle s'est aperçue qu'avec peu de gestes, en fait, elle arrive à faire des économies considérables, c'est pour ça qu'elle a signé. Moi, d'un coup, c'est vraiment la Chine n'était pas concernée, elle avait plus de 44. Le Japon avait dit, on va essayer de faire moins 6, on fait plus de 19, à peu près. Et globalement, le monde, et moi j'en ai des objectifs sur le monde a fait quand même plus de 4 en 12 ans. Alors évidemment, quand on regarde ici le classement, on s'aperçoit que la France, quand même, fait partie des bons élèves. Hein. Vous retrouvez là, on est en tonnes de CO2 par habitant. Alors, bon, bah, sur le podium, vous avez les États-Unis, l'Australie et le Canada. Et puis après, donc, vous avez un certain nombre de pays, donc vous voyez, on peut encore regarder l'Europe, l'Allemagne est à 28, le Royaume-Uni à 19, et la France n'est qu'à 58. Regardez la Chine, malgré tout, bien qu'elle soit à 6, en rouge tout simplement, parce qu'évidemment, si vous regardez la population, ben, la Chine, elle, évidemment, est largement en tête, globalement, puisque le pays est quand même très très important, il n'y a pas très longtemps, les États-Unis. On dit que l'Inde ne devrait pas tarder, si on les met en rouge aussi, à passer la Russie. Et dans ce classement donc, des pays les plus riches,
la France serait au 15e rang. En revanche, donc ça, tout ça, c'est des chiffres que vous pourrez retrouver, hein, je vous donnerai bien après, vous pourrez retrouver ces tableaux, mais ils sont aussi d'ailleurs dans le livre, hein, donc voilà. Ça, c'est l'Europe. Alors, oui, dans l'Europe, donc, c'est Luxembourg, hein, c'est tout pays confondu. Luxembourg qui est très très largement en tête. Hein. Et vous voyez que nous, bah, bon, on a des pays riches aussi en Europe comme la Suède ou la Suisse qui sont quand même encore meilleurs que nous, tout simplement parce que bah, la Suède, en gros, c'est du nucléaire et puis donc de l'hydraulique. Hein. Donc effectivement, ça fait peu de tonnes de CO2 par habitant, ça fait moins que nous. La Suisse aussi, mais globalement, vous voyez, sur ce classement, sur 36 pays européens, on est 27e, et on est alors tout pays du 66e monde. Pour l'électricité, on retrouve un peu la même chose. Selon les filières, vous voyez ici, l'émission de CO2 par kilowattheure, donc des grammes de CO2. Alors, il faudra cette année de retrouver, pour toutes les sources, quelques émissions de CO2, comptées pour l'hydraulique, le nucléaire, le lien photovoltaïque. Tout simplement parce que bah, il y a la conception, il y a la maintenance, il y a le démantèlement, etc. Et ça, on est dans du classique, donc forcément il y a des émissions de CO2. En revanche, évidemment, vous avez aussi pour l'éolien photovoltaïque, eh bien le côté intermittent donc de l'énergie, c'est-à-dire que si vous avez si vous êtes dans des pays qui ont un parc éolien important, et la France est en train de constituer un parc éolien important. Il faut que ce soit évidemment une source d'énergie qui soit fiable. Et comme elle n'est pas fiable, eh bien, il faut que vous ayez une source d'énergie qui puisse répondre immédiatement à ça. Et la seule, c'est le gaz. C'est-à-dire que si vous installez 1000 MW d'éolien, vous devez installer 1000 MW de gaz à côté. Hein. Alors, ça permet à des pays, par exemple, comme le Danemark, d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que quand, au mois de février, l'Europe a manqué d'énergie, leurs éoliennes tournaient très bien. Normalement, donc, leur turbine à gaz n'aurait pas dû tourner, mais du coup, c'est tourné pour offrir donc aux autres pays à forcer. Vendre, hein, au moment où le coût du mégawattheure est vraiment très très cher, vendre donc du mégawattheure aux pays qui en demandaient comme la France. Hein. Donc, voilà. Et donc, nous, Français, vous voyez, on est en train d'installer, on n'en parle jamais, ça, c'est assez bizarre. On est en train d'installer 11700 MW de gaz, hein, qui est quand même beaucoup, justement parce qu'on est en train de développer notre parc éolien. Alors c'est aussi pour essayer de supprimer les centrales les plus polluantes au charbon, mais c'est pas grand chose, hein, centrales au charbon, c'est surtout effectivement pour pallier donc l'éolien. Quand c'était un rappel, vous voyez que le thermique classique, il y a donc aussi ces 27100 MW, et qu'aujourd'hui le renouvelable en installé, hein, bien sûr, est plus important, et donc on rajoute le alors je vais passer très vite sur toutes ces énergies pour laisser après la parole à l'évaluation de l'accord. Vous voyez que la France se comporte bien sur l'énergie éolienne en Europe. La production d'énergie en 2000 c'était peu de chose, 0,02 gigawatts. Alors évidemment, bon, il y a un certain nombre d'inconvénients par rapport au côté renouvelable. Ce que je voulais vous montrer, surtout, c'est cette carte de France pour montrer un peu la politique qui est faite et qui n'est pas toujours, pour les scientifiques comme nous, une politique rigoureuse. Parce que la logique des choses, c'est de dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut installer évidemment des éoliennes là où il y a du vent. C'est-à-dire là où c'est rouge et violet, en gros. Alors en France, en fait, on met des éoliennes là où les régions ont accepté d'en avoir, tout simplement, effectivement, parce que d'un autre côté, ça leur rapporte de l'argent. Et quand vous regardez la carte, là, vous voyez que c'est complètement illogique. Hein. C'est-à-dire que là où l'on a le plus, c'est la région Lorraine, c'est là où les rendements sont les plus bas. Alors bien sûr, tout le monde va compter, ça, il n'y a pas de souci. Dans le Cotillon, justement, on dit, il n'y a pas de souci. Mais tout le reste, globalement, vous voyez, on aurait perdu, effectivement, remettre tant que vraiment la ligne, qui fait que ça donne des rendements, évidemment, qui ne sont pas très bons. Quoi. Alors, les chiffres, est-ce que on peut s'en battre, hein, de toute façon, vous prenez France Énergie Éolienne, voilà, vous avez le bilan 2011, 4058 éoliennes, 6640 MW installés, l'énergie produite a été de 11,9 TWh. Or, si vous avez 6640 MW, c'est quand même facile de calculer les MWh, multiplié par 365 et vous multipliez par 24, et vous obtenez 58,16. Et vous voyez que 11,9 par rapport à 58,16, ça fait 20%. C'est-à-dire que, en fait, tout se passe comme si
toute l'année, vous aviez une éolienne sur terre qui fournissait de l'électricité. Alors, pensez toujours à, effectivement, donc, le fait que le rendement n'était pas très grand, mais malgré tout, vous voyez, quand j'ai une piste, etc., je me suis beaucoup dans la manche, donc j'en viens d'ailleurs, j'en suis parti ce matin, 2000 éoliennes peuvent remplacer un réacteur EPR, et là c'est exact, c'est vrai, on peut déjà voir ce que ça fait 2000 éoliennes, hein, mais bon, mais si vous prenez 2000 éoliennes de 5 MW, et vous vous fournir en fait la même puissance électrique qu'un réacteur qui aura la même quantité d'énergie au bout du compte de vos années. En revanche, évidemment, quand on en parle, non, on parle toujours du coût de l'EPR qui est passé de 3,5 à 6 milliards, mais maintenant on est quand même stabilisé à 6 milliards, c'est quand même un peu plus sérieux. Et vous voyez que là, bah, ça vous fait, selon que c'est de l'offshore ou de l'offshore, c'est-à-dire en, donc, sur les terres ou en mer, un coût entre 20 et 30 milliards d'euros. Et sans oublier, évidemment, les millions de tonnes de béton, parce que ça, en général, c'est enterré ou c'est sous la mer, donc on les voit pas. Mais il faut pas oublier quand même que les millions de tonnes, dans ce cas-là, elles sont là quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec l'équipe de Saint-Jacob? Et là, on s'est dit, l'exercice, donc, on a besoin d'énergie, donc, quelle a été notre motivation? Ça a été de dire, bon, on ne fait pas d'économie, on ne fait pas d'écologie, on regarde ce que ça donne dans le monde. Donc ça veut dire qu'on met des éoliennes, en gros, partout où on peut en mettre, mais avec un bon rendement. Alors, évidemment, il faudrait surtout les mettre dans le désert, mais ça passe par un stockage d'énergie. On ne sait pas stocker l'énergie à grande quantité aujourd'hui. Et donc, ça passe aussi par cet aspect de recherche-là. Et si c'est ça, si vous mettez des éoliennes partout pour en mettre, bien, ça fait 3 gigawatts, ouais, c'est considérable par rapport à ce qu'on avait en 2006. Ça fait 6 millions d'éoliennes de 5 millions. Bon. Et en termes de surface mondiale occupée, vous voyez, c'est pas si énorme que ça, c'est 10 fois celle de la France. Donc il y a pas mal de déserts, effectivement, qu'on pourrait occuper de cette façon. Donc voilà pour l'éolien. Alors on a ensuite l'hydraulique. Alors évidemment, vous voyez qu'on pense tout de suite aux ruptures qu'il y a. Aujourd'hui, c'est 0,25 à peu près gigawatts par an. Et là, c'est simple, si vous mettez des barrages partout, si vous voyez tout ce que vous pouvez noyer, il y a un facteur 6. Donc vous avez 1,5. Encore faut-il que les populations, ce qui n'est pas le cas au milieu où, donc, on peut dire, on essaie de former un énorme barrage d'une opposition absolument terrible. Donc on ne sait pas où compter l'opposition. On a pensé qu'on pouvait mettre des barrages partout pour en mettre. On arrive à 1,5 gigawatts. Et donc, on passe, vous voyez, de diminuer doucement, mais ensuite, en gros, c'est un peu comme ça. La géothermie, effectivement, la température de la Terre augmente de 2-3 mètres de profondeur, on a vu ça à l'époque, alors, les pompes à chaleur, bien sûr, très souvent, c'est plutôt du solaire aussi, hein, la pompe à chaleur, pour être quand même avec des profondeurs assez importantes, pour qu'on puisse parler de géothermie, mais peu importe. Donc, chaleur, électricité, donc, les pompes à chaleur, effectivement, il faut développer ça au maximum, c'est clair, un peu en peu. On peut imaginer qu'on puisse avoir un facteur 20, comme vous voyez ici, qui va passer à 1 gigawatt par an en juillet. Alors, l'énergie solaire, vous voyez, il y a plusieurs parties, conversion thermique, conversion thermodynamique et conversion photovoltaïque, c'est la conversion de l'électricité. Pour la conversion thermique, ça, effectivement, ça ne coûte pas très cher et ça peut rapporter gros. Puis c'est tout ce qui est chauffage solaire, chauffage solaire, hein, il faut essayer d'utiliser ça au maximum, c'est clair. La conversion thermodynamique, c'est plus compliqué, une centrale à thermosolaire. Je pense qu'il faut en faire pour regarder ce que ça donne. Ça fait un coût du kilowattheure qui est prohibitif, mais ça fait des effets. Donc on peut tester. Et puis vous avez évidemment ce dont on parle beaucoup, c'est la conversion photovoltaïque. Les fameux panneaux. Hein. Alors, vous voyez, la production d'énergie qui était vraiment un kilom en 2006, et bien on a mis comme éolien à 3 gigawatts en partageant, en fait, comme vous allez le voir, donc on passe à 24, 38, 48, en mettant 2 gigawatts pour le thermique et 1 gigawatt pour la production d'électricité. Alors, là aussi, on ne peut pas remonter plus. Ce qu'il faut voir, c'est que 1 gigawatt de production d'électricité, vous voyez 12 mètres carrés de panneaux solaires par habitant de la Terre pour les 5 ans, peu importe le coût, hein, le coût peut baisser. C'est avec nos connaissances d'aujourd'hui encore, enfin, car demain on peut-être trouver un carburant. Avec nos connaissances d'aujourd'hui, on épuise tous les métaux de la planète. Hein. Alors les problèmes d'ailleurs concernant le tout démantèlement, on n'a pas que le nucléaire le démantèlement, mais là on aura épuisé tout ce qui est métaux dans la fabrication de ces fameux. Donc au vu ça, on peut pas faire mieux, encore une fois avec les connaissances d'aujourd'hui. Alors là aussi, c'est comme le lien, si vous voulez, quand on regarde. Bah, c'est quand même logique de dire qu'il faut mettre des panneaux là où il y a du soleil. Hein. Et bah, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, parce que toute l'Europe, vous voyez, toute l'Amérique du Nord, effectivement, les rendements sont mauvais. Hein. C'est clair, ça. Et juste pour insister, pour encore une fois montrer que je n'essaye pas de traiter les chiffres, et ça c'est un exercice que je donne brièvement à mes élèves lorsqu'il y a tous les problèmes d'unité d'énergie. Oui, ça j'ai pris ça dans le journal Métro. Bien, voilà. On a construit la plus grande centrale à Turban. Pourtant, on va en France où il y a quand même beaucoup de soleil. Et donc, 33 MW, elle va produire à partir de 43,5 millions de kWh par an. Eh bien, on peut calculer, je ne vais pas vous faire faire, mais je vous donne la réponse. On peut calculer, ça fait 15%. Voilà. Donc, ça, c'est le côté, effectivement, un petit peu aléatoire du prochain domaine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut en tenir compte. Et il faut en particulier, en tout cas, essayer de développer donc le stockage de l'énergie en grande quantité. Alors, ça, on va penser aussi beaucoup, donc je dis, c'est ma facture, c'est à moi, hein, je ne vais pas servir l'autre. Donc, vous voyez, quand vous comparez quand même d'une année sur l'autre, hein, vous avez une facture augmentée parce qu'on vous rajoutait de plus en plus de tâches. Alors, vous voyez, quand, du 21 octobre 2010 au 21 avril 2011, donc vous aviez le coût du kilowattheure à 7,9 centimes d'euros, là, et un surcoût, contribution service, ça fait pour toute l'énergie renouvelable, qui était de 0,45 centimes d'euros. Et puis, vous regardez la même facture juste un an après, en 21 octobre 2011 au 21 avril 2012. Alors vous voyez que le coût du kilowattheure n'a pas trop augmenté, il est passé de 7,9 à 8,07, plus 2%. En revanche, le tuning n'est que de taxes, hein, et ces deux lignes, vous voyez, ça fait quand même 24% d'augmentation en un an. On a beaucoup entendu parler du nucléaire, c'est changé tous ces travaux, etc. Ça allait peut-être faire 10% d'augmentation sur la facture d'électricité. Et là, on nous aura dit qu'en un an, vous voyez, on avait récupéré 24% d'augmentation, sans qu'on en parle, mais surtout regarder sa facture d'électricité, et ça va. Et 30% de temps, évidemment, c'est l'investissement dans le photovoltaïque. Et on a encore une autre augmentation prévue sur ces lignes de taxes pour l'année 2012. Donc rendez-vous dans un mois pour attention de nos facture. Biomasse, c'est beaucoup la biomasse, vous voyez, 10% en 2000, quand vous faites du bois, taille, etc. C'est responsable quand même de beaucoup de morts par jour, parce que, évidemment, les asphyxies, malheureusement, dans les pays en voie de développement, il y a là où on a les conditions les plus difficiles, évidemment, pour vivre. J'ai vérifié ces chiffres, ça semble énorme, mais c'est vrai, donc il y a plusieurs jours, 10% morts par jour. Donc ça, c'est la chaleur, et puis évidemment, vous avez, selon vos barbecues, les transports. Ce sont les biocarburants. Alors, il y a deux filières, donc je ne vais pas les parler. Et quand on dit, on entend même le ministre nous dire ça en disant, vous voyez, c'est quand même, c'est formidable parce que la plante, sans qu'elle pousse, elle absorbe son gaz carbonique, c'est vrai. Et puis quand je la brûle, elle rejette le gaz carbonique, c'est vrai. Donc le bilan, il est zéro. Ça, c'est faux. C'est faux, pourquoi? Parce que, il faut mettre du carbone dans le facteur, fabriquer des engrais, broyer sur les choses que vous avez. Et puis, si vous avez donc la filière alcool, vous produisez évidemment le produit obtenu. Moi, quand j'entends des gens qui disent, mais moi, je me chauffe au bois et j'ai un bilan carbone ou CO2 nul, c'est vrai, à condition que vous ayez 5 hectares de forêt personnelle, hein, et vous avez une forêt de 5 hectares, de toute façon, est-ce que ça se renouvelle? Que évidemment vous utilisiez une hache ou une scie à main et que vous travailliez votre bois dans votre brouette. Ça c'est vrai. Et à partir du moment où vous utilisez une tronçonneuse ou autre ou un tracteur, eh bien évidemment le bilan il est forcément venu. On va faire des biocarburants parce qu'on va manquer d'hydrocarbures, qu'on a besoin de carburant et que donc on va faire des biocarburants. Oui. Qu'on dise que ce soit pour faire un bilan de carbone bleu, donc ça c'est faux. Hein. Donc, vous voyez, en France, hein, quand on voulait remplacer la moitié du pétrole, c'était dans les transports, alors là, on n'est plus en surface, comme tout à l'heure pour les éoliennes, on est en surface que du mal. Ça change quand même la donne, ça fait des immobilisations énormes. Alors, j'avais fait à l'époque, avec Saint-Jacob, un éditorial qui s'appelait « On connaissait voir ou conduire, il faut choisir, il va falloir s'habituer à manger ou rouler, il faut trancher ». Et ça a été repris peu de temps après, d'ailleurs, par Chimélus dans un dessin, vous voyez. On n'est pas une droite d'auteur là-dessus, mais bon, moyennant quoi, globalement, on peut penser qu'on peut faire 4 gigatèques par an, peut-être en 2050, c'est quand même grâce à ça la surface de la France de faire ce village, donc c'est beaucoup. Mais il y a déjà des plantes qui peuvent pousser en fait dans des régions qui sont un peu sauvages ou autres et qu'on peut utiliser peut-être. Enfin, si on met les moyens, politiquement, dans certains pays, on va pouvoir quand même augmenter ça beaucoup. Et à ce moment-là, évidemment, on fait aussi, bien sûr, notre étiquette d'OTAN. En hydrogène, bon, le carburant de demain, pourquoi pas. Le problème, hein, c'est que vous savez, bien que l'hydrogène soit présent partout, il est disponible d'une part. Il existe toujours de combiner d'autres éléments, et là aussi, évidemment, il faut l'isoler. Donc, l'énergie des mers, alors l'énergie des mers, il y a plusieurs facettes, hein. L'énergie de marémotrime, bien sûr, l'énergie de relief, l'énergie de courant, l'énergie de vague, l'énergie thermique des mers. C'est peu de choses aujourd'hui, mais pourquoi pas, il faut être optimiste en particulier donc, sur la recherche, hein, et on est ici quand même en théorie, donc la recherche on connaît, et on s'est excellé d'ailleurs en recherche, donc, 1 gigatonne par an, c'est pas impossible, ça fait aussi d'autant. Alors après, on en arrive donc évidemment à oublier les combustibles fossiles. Donc il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que en fait une ville d'un million d'habitants utilise 1 gigawatt électrique. Et là, 450 villes dans le monde, enfin maintenant on est plus près de 500 d'ailleurs, donc qui ont plus d'un million d'habitants, qui regroupent plus d'un milliard et demi, entre 1 milliard et demi et 2 milliards d'individus sur la ville, c'est grande ville, et la réacteur thermique qui peut fournir une telle puissance, à 1 gigawatt, c'est énorme. Hein. Donc vous ne pouvez pas faire ça, ni avec des barrages, ni avec de l'éolien, ni avec du photovoltaïque, ni avec quoi d'autre. Réacteur thermique. Le thermique, c'est thermique classique ou thermique nucléaire. Regardons le thermique classique, c'était 2,7 gigawatts en 2000. Et alors, est-ce qu'on pouvait diminuer, on est vraiment encore à 10 ans, vous voyez, en 10 ans, 10 ans à 32,33. Donc on s'est dit, on fait ça, on dit, bon, 4 peut-être, voilà, en développant d'autres sources d'énergie là-dessus. On est resté sur 4, on arrive donc à 15, on a plus de 39. Combustible fossile, c'est aussi, évidemment, chaleur et transport. Donc on retrouve bien l'ensemble de ce qu'on avait tout à l'heure en combustible fossile. Là aussi, on ne peut pas dire qu'on va pouvoir diminuer ça compte tenu de, justement de la population de 2050. On n'augmente pas beaucoup comme on est quand même, donc on arrive à vite. Et donc 7, 21, 32, etc. L'énergie musculaire, donc, vous voyez, à niveau de près, sur l'eau du Père Noël, donc ça reste quand même assez éclectique. Et on ne peut pas penser qu'on va faire bouger notre étiquette avec ça. Alors les économies d'énergie, bien sûr, les économies d'énergie, quand on regarde si énergie primaire, énergie secondaire, énergie finale, énergie utile, et qu'on regarde le pourcentage, on s'aperçoit que quand on utilise un appareil électrique, en fait, on n'utilise que 15% environ de l'énergie primaire. Ça veut dire qu'à chacune de ces étapes, il y a probablement des moyens de faire des économies pour mieux utiliser l'énergie. Ça c'est clair, et c'est ça aussi qu'il faut faire. Donc, ouais, bien intelligent pour l'habitation, on en parle beaucoup, hein, puis certains, oui, l'amélioration du nombre de moteurs, etc. Changement individuel d'habitude de vie sans contrainte réelle, recherche poussée sans le dit déjà sur le stockage d'énergie, des subventions utilisées de façon intelligente. On s'est dit combien? Alors, on s'est dit quand même que l'économie d'énergie, oui, j'en ai des faciles. Voilà. Ça, par exemple, faut arrêter. Hein. Regardez ce cochon, il est né au Canada, il a été élevé en Australie, il a été abattu en Belgique. Il a parcouru 35 000 km en suivant des assiettes. Il n'est même pas vendu très cher, hein, 6,54 € le kilo. Pas très cher parce que l'énergie, justement, je dirais, est moins chère. Si l'énergie devient plus chère, évidemment, ça se paraîtra. Il faut que ça s'arrête. Bon. J'avais, moi, quand j'ai acheté un écran plat, vous voyez, vous avez 3 boutons, donc de mode d'emploi, en fait, en 150 langues, et vous n'utilisez que 15 pages en français. Tout ça parce que, évidemment, on fabrique des cartons qui s'apparent dans le monde entier. Bon, ça vaut du papier recyclé, c'est quand même des gâchis, des injures. Donc, il faut pas éviter, il y a des choses qu'on peut dire. Mais, quand on regarde l'informatique, le visuel, etc., ça, c'est la consommation énergétique qui ne peut qu'augmenter dans l'avenir. Tout simplement parce que, justement, les populations, hein, le gradé transistor dont je parlais tout à l'heure, de plus en plus de populations vont utiliser l'informatique. Et il n'y a pas longtemps, vous avez le rapport de donc l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, 1er décembre 2011, quand vous regardez ça, c'est écrit comme ça, hein, le téléchargement sur son ordinateur de la version électronique d'un quotidien, c'est équivalent à EGT. Alors, on dirait EGT, ça veut dire en gros l'énergie qu'il faut pour faire une EGT. Hein. Une recherche au site de Google, c'est une heure de lumière dispensée par une ampoule à l'économie d'énergie. Alors, quand on voit certains d'entre nous courir pour faire une recherche sur Google, ça en fait des heures de lumière. Il y a même voyez, un chercheur de l'université de Rennes qui a montré que le fonctionnement d'Internet pourrait, dans 25 ans, consommer autant d'énergie que l'humanité tout entière aujourd'hui, c'est-à-dire en gros 12, aujourd'hui c'est 12 gigatech. Bon. Donc, voilà, économie d'énergie, certes, oui, mais on a quand même voilà, un certain nombre de contraintes aujourd'hui qui sont difficiles. Est-ce qu'on peut faire 1,5 gigatech alors, c'est 15% d'aujourd'hui. Et des gens, des fois, dans les conférences, ont dit oui, mais on pourra faire plus, mais attendez, attendez, faire plus. C'est à nous à faire des économies d'énergie. C'est pas les pays en voie de développement. Ceux qui ne consomment pas d'énergie, en gros, vont pas faire des économies d'énergie. Donc c'est à nous, mais avoir 1% de la tête, c'est-à-dire que nous, on parle de 40 et 50%. Donc c'est un changement radical dans tous les pays. Là. Tout à l'heure, les 1,4 milliards dont on parlait, qui dépensent 80% de la richesse de la planète aujourd'hui, c'est à eux à faire ces économies d'énergie. C'est énorme. Vraiment quoi, donc on arrive, vous voyez, 5, 19, 32. Donc, on a utilisé, vous voyez, toutes les sources d'énergie, sauf le nucléaire, évidemment, j'ai pas parlé du nucléaire, mais ça, c'était notre démarche à l'équipe de Saint-Jacques, c'est-à-dire, bon, voilà, on met tout sur le papier, on l'a, vous voyez, on a malheureusement fait oublier les promesses de développement durable, ni celle du protocole de Kyoto, puisqu'on a continué à consommer du combustible fossile, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On n'a même pas éliminé sur le coup du mégatech, parce qu'on n'avait pas vu intervenir. Et pourtant, on a effectivement encore donc une... Alors, ben, ça veut dire que si on veut essayer même de respecter simplement le scénario du 20e siècle, eh bien, il n'y a plus que l'énergie nucléaire. Donc, est-ce qu'on peut s'appuyer au nucléaire ? Franchement, c'est difficile. C'est une autre planète. Et encore, 5,5 gigatech, c'est 3500 réacteurs à fonction en 40 ans. Donc, je ne pense même pas qu'on puisse arriver à ça. Enfin, nous ne pensons pas, parce qu'on a écrit le livre de Dieu, hein. Mais on n'échappera pas, en fait, à un parc nucléaire au niveau mondial. Donc, ça, c'est un résumé de tout ce que vous avez vu sur le plan précédent. Mais quand même, de ce qu'on appelle le mix énergétique mondial, il a quand même énormément changé. Vous avez en gros à 10% à peu près de l'éolien, du solaire, du nucléaire, l'hydraulique est pas très loin, le biomasse est un petit peu plus, les énergies fossiles qui ne représentent plus que 42%, mais encore 42% quand même, par rapport aux 80, c'est bien, mais quand même, bon, et la géothermie aussi peut augmenter, est-ce qu'on peut faire plus? C'était difficile de se prononcer, mais vous voyez qu'on arrive qu'à effectivement 28,5%. Donc le nucléaire vient de subir un séisme, c'est clair, avec Fukushima, mais la planète, en fait, est contrainte de l'éviter en tsunami, et il faut aussi préparer, tirer des leçons des accidents du Japon. Alors, quand on voit cette planche, c'est vrai que, bah, ça fait quand même, bon, alors, vous voyez où étaient les deux aides de secours, ils sont au-dessus du niveau de la mer, c'est sûr, puisque, bon, on va regarder eux, ça c'est la vague, hein, les bleus, mais ils étaient au-dessus, mais franchement, bon, comme à Flamanville, vous avez dit qu'ils allaient mettre les diesels dans la falaise et qu'on avait vu quand même un certain rebondissement médiatique, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'on pouvait les mettre en hauteur, quoi. Au moins les mettre dans des compartiments étanches. Bon, ça, c'est des choses évidemment qu'on va faire maintenant, c'est la première des leçons de Fukushima, mais il n'y avait pas grand chose à faire pour éviter cette catastrophe. Alors, juste, encore une fois, quelques planches sur des choses dont on ne parle pas beaucoup, et puis j'en aurai terminé. Quand on regarde la production, elle est un peu franco-française. En production française d'électricité, vous voyez, elle a été multipliée par 11 en 50 ans. Et on voit évidemment, la part du nucléaire, évidemment, qui augmente. Bien qu'en quantité, vous voyez que le thermique classique et l'hydraulique se taillent quand même une part importante, parce qu'on a aussi plus que doublé. En fait, ces capacités, mais malgré tout, évidemment, ça commence, qui est pas. Quand on compare ça aujourd'hui, c'est intéressant de voir ça. Vous voyez, le prix du mégawatt-heure industriel et domestique, vous voyez que la France, alors ça, en termes surtout industriels, la région domestique, bon, ça nous touche nous, mais industriel, c'est quand même important. Vous voyez qu'on est, très bas par rapport aux autres pays, et l'Allemagne est en train de perdre cette partie-là aujourd'hui, parce que son mégawatt-heure continue
sont partis aux États-Unis en moins d'un an, hein, parce que l'énergie est moins chère, et pourtant elles gèrent leur siège en Allemagne, et tout le monde est parti déjà. Hein. Donc ça c'est important aussi à souvenir. La puissance maximale assez par le réseau, vous voyez, c'est une augmentation sur 60 ans de 4,5% en moyenne. Et alors ça, bah, 8 février 2012, on a tous vécu le record, c'est la première fois qu'on passait au-dessus de 100 000 mégawatts. Alors, il y a plusieurs enseignements intéressants sur cette courbe. Ça, vous pouvez la trouver sur le RTE. Le RTE vous donne ça. Quart d'heure par quart d'heure et source d'énergie par source d'énergie. Et justement, quand vous regardez, ça rejoint l'intermittent dont je vous parlais tout à l'heure, quand vous regardez les éoliennes françaises, et bien là où elles tournent beaucoup, c'est là où on a tant besoin. C'est entre 3 et 4 heures du matin, il y avait plus de 3000 MW. Hein. En revanche, à la pointe, il n'y en avait plus que 11 ans.
Vous pouvez les chiffres.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté intermittent, il y a le côté non-fiabilité. C'est-à-dire qu'au moment où on en a besoin, ah voilà, s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de. On sait bien qu'à 7h du soir, de toute façon, on n'aura pas de photovoltaïque, peut-être un soleil, mais on pourrait penser quand même qu'on aurait du vent dans les parcs. Et la deuxième chose importante, deuxième enseignement intéressant, c'est que quand vous regardez le 84 500, là on va consommer le moins d'électricité ce jour-là, c'était le record, c'est-à-dire le pic de 2005, il y a 7 ans. Donc, c'est comme ça, on peut le déplorer à la rigueur, mais je veux dire, on vit dans ce monde-là aujourd'hui, il faut faire avec. Je vous mets quelques photos, je vous ai rajouté qu'en fait, dans le moment où je suis à la retraite, bien qu'un fonctionnaire soit jamais à la retraite, il fait voir ses droits de pension, mais peu importe, je milite dans les salaires des clics, c'est la commission locale d'information. Et je suis expert scientifique et même vice-président des trois filles du Cotentin, celle de la Halle, de l'Union de la Halle, celle du centre de l'Andrave de stockage des charges et celle donc de Flamanville, avec les deux réacteurs qui tournent et son chantier de l'EPR. Donc simplement, comme on a beaucoup parlé ces derniers temps du chantier de l'EPR, je vais vous montrer quelques photos qui sont d'ailleurs pas si récentes comme ça, que ça, mais pour vous montrer quand même 15 millions d'heures travaillées, vous voyez, c'est quand même pas rien. Bon, il y a du raillage, il y a des ponts, 400 000 mètres cubes, 16 millions de tonnes dont je vous parlais. Et vous voyez, donc, c'est la salle des machines derrière le bâtiment réacteur, donc elle est terminée. Le pôle opérationnel d'exploitation sur le côté est terminé aussi. Voilà, vu l'ensemble, vous avez les deux autres réacteurs là-bas. Vous avez les turbines qui sont déjà arrivées, vous voyez, qui s'installent, non. Donc, quand même, voilà, ça c'est quand même un chantier qui est non pas terminé, mais qui est bien avancé. Voilà les étapes donc, de construction avec une production maintenant en 2016. Alors évidemment, il y a une chose qu'on a très mal compris tous au banc qu'on est en termes de communication, c'est alors que c'est une tête de série. Pourquoi est-ce qu'on a été dire qu'on allait faire ce réacteur en 54 mois, alors qu'on n'a jamais fait ça, hein? Celui qui a été le plus rapide, 55 mois, c'est un 900 MW, mais quand vous regardez même celui qui est le plus proche, c'est Fabienne 4, 155 mois, c'est-à-dire 13 ans. Bon, en moyenne 10 ans, comme vous le voyez. Bon. Pourquoi est-ce qu'on a dit, on aurait dit, tiens, on va le faire en 10 ans. On va le faire en 8 ans, en fait. Bon, 100 mois. On aurait dit on va le faire en 10 ans, mais on l'aurait fait en 8 ans, on aurait dit, bah oui, regardez, hein, on a 2 ans d'avance, etc. Non, il a fallu qu'on dise qu'on allait faire en 4 ans et demi. Alors évidemment, c'était impossible, donc on a pris du retard, 2 ans, 2 ans, et évidemment, on a expliqué tout le monde, c'est-à-dire, bah voilà, un chantier qui est en retard. Bah oui, mais on n'était pas obligé de dire au départ qu'on allait le faire en 4 ans et demi. Alors, autre chose aussi que je l'ai mis pour ceux qui suivent un peu l'actualité, on a été frappé de voir que donc, les Chinois sont en train de construire 4 EPR. Et que le dôme était déjà installé sur le bâtiment réacteur en Chine. Alors que l'autre, il n'est toujours pas sur le pire qui a démarré avant. Alors on s'est dit quand même, les Chinois, c'est ce qu'ils font fort, ils vont très très vite. Ah oui, mais quand vous regardez l'image, vous voyez qu'en fait, ils ont tout misé sur le bâtiment réacteur. Hein. Quand vous comparez à notre PR, derrière, il n'y a rien. Quoi. Donc effectivement, ils ont tout misé là-dessus, donc voilà pourquoi ils ont déjà couvert leur dôme. Mais ils vont voir si en avance que ça, c'est logique. Pour excuser leur peine. Enfin, je vous ai mis ça aussi parce que des fois, je me pose des questions sur vous connaissez le réseau sortir du nucléaire. Et vous voyez un jour se faire de décembre 2017, j'avais mis intégralement le test. Donc, l'objectif pour se sortir du nucléaire, c'est d'aller à la décision de la Chine de produire le signal aux électriques et les éléments du groupe par exemple pour la réalisation de 4 réacteurs nucléaires chimiques de 3e génération. Alors, depuis, donc, vous avez bien compris qu'on avait récupéré le marché. C'est qu'un secret réacteur au pression et la famille de Westinghouse, contracteur des années par Toshiba, plutôt que PR d'Arena. Le réseau sortir du nucléaire ne peut que se féliciter de l'effet de l'Arena qui espérait vendre son réacteur au clair en Chine, déclare le collectif sans le communiqué, fin de citation. Dire moi, si je milite dans une association qui dit qu'on veut sortir du nucléaire, je me lamente que les Chinois achètent des réacteurs à qui que ce soit. Mais je ne me réjouis pas que mon pays perde un marché de 30 milliards de dollars parce que les Chinois ont préféré 4 à 5 000. Donc ça, des fois, je me demande. Il faut voir qu'on est dans un monde, effectivement, où le marché du nucléaire, qui globalement, vous allez voir, de toute façon, Fukushima ne va pas faire grand-chose sur l'impact de l'énergie nucléaire mondiale, globalement. Vous avez peut-être vu comme moi, il y a deux jours, que les Japonais, ça y est, demandaient l'autorisation de redémarrer leur réacteur. Bon, ça, c'était il y a deux jours. Parce que, malheureusement, comme je l'ai dit dans un autre communiqué, ils n'ont pas le choix. On peut tout répondre, mais ils n'ont pas le choix. Mais, vous voyez, alors voilà, je m'interroge pas. Le marché à milliers de milliards de dollars, évidemment, et tous les coûts sont bons. Alors, vous voyez, novembre 2011, bien après Fukushima, vous voyez, donc, tous ces pays-là, dont l'ancienne, effectivement, dans le nucléaire, on va pas insister là-dessus, vous pouvez les retrouver, avec qui, on a dit, bon, on peut penser raisonnable d'avoir 3 gigatèques de nucléaire, que vous avez vu dans le tableau tout à l'heure. Je rappelle ici, donc, des données qui sont récentes, hein. Donc vous avez en fait ces fameux réacteurs 3e génération, type EPR, vous voyez, il y a une vingtaine de modèles quand même. Hein. La Chine, la Corée du Sud, donc la France, bien sûr, le Japon, la Russie, les États-Unis, ont des appareils en démonstration, en construction. Et fin 2011, il y avait 40 pays, c'est la liste que vous avez vue sur la diapositive précédente, dans leur recours à l'énergie nucléaire de la Nucléaire. Le 10 février 2012, il y a 16 pays de l'Union Européenne qui viennent réaffirmer leur attachement en nucléaire. Et il y a même, vous voyez, l'Espagne et la Suisse, début mars, qui ont décidé de prolonger la durée de vie de leur contrat. Vous le savez aussi, la Chine est en train de signer un accord de coopération de 4 ans pour développer un dérivé de ce qu'on appelle l'ADMER 1, qui est un réacteur 3e génération un peu plus petit, il y a 28 ans, mais vous voyez, c'est vrai que le Royaume-Uni vient de consolider un peu les conséquences de l'AGS sur son sol, et même les États-Unis, assez curieusement, qui n'avaient rien fait depuis 1986, vous voyez, a décidé de terminer donc ce réacteur 3e de Rockwell. Qui devrait démarrer en 2016. Donc, c'est quand même une volonté. Alors, évidemment, il y a plusieurs défis. Hein. Il faut regarder les générateurs de demain. Il faut tenir compte, je l'ai déjà dit, du retour d'expérience de cet accident dramatique de Fukushima. Vous les avez, bien sûr, au niveau de la planète, encore une fois, les problèmes de sûreté, de non-prolifération. Le problème des déchets, c'est aussi un défi pour toute la planète, d'ailleurs. Il faut évidemment que la population soit informée à juste titre et à bon escient de façon à ce qu'elle se voit que l'énergie nucléaire est quand même donc, rentable, et bien sûr passer par l'information. Alors il n'y a pas longtemps, il y a ça dans le journal, dire bon, voilà, il faut savoir ce qu'on veut, là, c'est pas le moment d'un procès, là, le Greenpeace, vous voyez, les militants de Greenpeace qui sont rentrés dans les centrales. Pas évidemment dans les locaux sensibles, mais quand même, c'est donc le nucléaire ne fait faire, bon, il reste plus grand chose. Hein. Il ne faut pas dire que ça permet de faire que l'éolien, du photovoltaïque, et ou du hydraulique. Et d'ailleurs, quand j'ai interrogé, puisque dans cette commission, on y a parlé tout à l'heure, on a un membre qui m'a contacté, je lui ai dit, bon, c'est bien ça, bon, c'est là, mais pourquoi est-ce que vous ne rentrez pas dans les centrales en Amérique? Ah, ben, il dit, c'est simple, hein, on serait directif, on serait des morts. Et il n'y aurait personne, d'ailleurs, dans la population américaine pour du défense. Hein. C'est une propriété privée. Bon, alors, une fois qu'on pense, effectivement, on ne peut pas dire cela, que la population, évidemment, a juste titre, vraiment, a beaucoup d'émotions, on en fait des martyrs, etc. Et la conclusion de ça, c'est que, on rentre dans une centrale nucléaire en France comme on veut. Mais bon, voilà la grosse différence. Il a été très, très sincère là-dessus, c'est tout à fait sûr. Donc voilà, moi j'en ai terminé, je vais donner la parole à Yves.
Alors pendant une dizaine de minutes maintenant, Yves Saint-Jacob, donc est journaliste, il était rédacteur en chef de l'agence France Presse et il est co-auteur avec la France de cet ouvrage.
Bien, bonjour à tous. Écoutez, on n'a pas juste pas parlé depuis une heure. On parlera pas tout le monde, je ne sais pas si vous connaissez la place que je suis là. Et j'avais deux, trois choses à dire, mais je les dirai à l'occasion du débat. Jacques Foss, on a formé un tandem avec lui, lui est l'expert, moi je ne suis pas du tout expert, même quand je suis beaucoup moins expert que la plupart d'entre vous dans cette salle, je ne vais pas jouer aux experts, parce que Jacques Foss a tout dit sur lui, il l'a bien présenté. Je dirais que deux choses, la place du débat, c'était deux réponses. La première, c'est, ça apparaît très bien dans le début du livre, et Jacques Foss en a parlé, je voudrais insister sur le lien très fort entre l'énergie et le développement. Le développement de la planète et notamment du moins favorisé. Parce que, moi qui ai 60 ans, il y a quelques années, on parlait beaucoup du développement du terme, c'est un sujet de préoccupation. Je trouve qu'il a une idée. On parle moins, il y a aujourd'hui des pays émergents qui sont en train, la Chine, l'Inde, le Brésil, etc., qui sont en train de se développer très fortement, mais il y a encore énormément de zones, notamment en Afrique et notamment en Asie, qui sont très en retard. On parle moins de leur développement. Et on ne remet pas, je trouve, de façon très explicite, le développement à l'énergie. Moi, j'ai des enfants jeunes, donc ils sont en secondaire, je regardais les livres de géographie. Quand on parle du développement de la planète, dans un esprit très cartésien, on dit ça généralement en quatre parties. Il y a l'eau, il y a l'alimentation, il y a la santé, il y a l'éducation. Mais dans ces quatre chapitres, c'est un dénominateur commun, c'est l'énergie. Chaque fois qu'il y a dit, je vais revenir dessus. Mais l'eau, bien évidemment, il faut ne pas la gaspiller, mais ça ne suffira pas. Donc il faut trouver des solutions. Une des solutions, c'est des agents de mer. Globalement, de mer, ça demande énormément d'énergie. L'alimentation, c'est pas la peine de dire que même si on va avoir une agriculture la plus bio possible, elle dépend de la mécanisation, elle dépend des engrais, donc de l'industrie chimique. L'éducation et la santé, dans le livre, on explique que les chiffres de Jacques Foss, une femme qui met un enfant au monde sans aucune aide médicale, elle dépense, en théorie, ça veut dire que 94 kWh. Si elle est suivie médicalement comme dans nos pays, c'est-à-dire avec des visites médicales, des échographies et un accouchement en milieu hospitalier, elle va dépenser 40 fois plus d'énergie. Et c'est légitime qu'une femme soit suivie médicalement. Et il faut des hôpitaux, ça. En matière d'éducation, l'énergie aussi joue un grand rôle. Moi, quand j'étais à l'AFP, j'étais longtemps en Inde. Je ne vais pas vous raconter des souvenirs, mais j'ai vécu dans un village indien qui n'était pas un village pauvre, c'était un village à 100 km de vie, mais il n'y avait pas d'électricité. Et donc, il y avait un général, et encore une fois, c'est pas un village pauvre. Il y avait développé demain de 2000 personnes en demain. Il y avait un générateur de soir qui marchait pendant une heure. Si vous êtes un jeune garçon là-bas, vous ne pouvez pas faire votre voyage quand il y a un générateur qui marche dans le village. On a un ami avec un chef au Népal, qui avait 35 ans. Quand il a fait des études, il me racontait qu'il avait deux jours de marche à pied pour venir à l'école à Katmandu. Donc, si on veut faire de l'éducation, il faut construire des universités, il faut construire des transports pour amener les élèves près du professeur, il faut mettre de l'énergie. C'est dépensé. On dit quelquefois, oui, mais il n'y a pas de problème, d'abord parce que. Avec du soleil en Afrique, donc on va pouvoir utiliser le soleil pour faire des cours solaires. Mais le développement, c'est pas construire des cours solaires en Afrique. Le développement, c'est construire des hôpitaux, des universités, qui permettent aux gens de se développer. Et puis, je crois que les pays en développement, c'est la même frénésie que nous en matière de consommation. Mais en même temps, il veut dire, les gens les aspirent eux-mêmes. À avoir un bien-être, je ne vois pas pourquoi nous, Européens, on leur dit, ah, désolé, c'est trop tard, on a tout épuisé, maintenant il va falloir de tout aider à la pension qu'on veut. Moi je dis, en fait, sur le scooter, vous n'avez pas des autres formes qui vont prendre, vous avez des familles de 30 personnes qui sont toutes sur un scooter. L'aspiration de cette famille de 5 personnes ou 6 personnes à avoir une voiture plutôt que de se mettre, de juger à 6 sur un scooter, c'est quelque chose de logique. Et puis, le tout, c'est bien, on a regardé une jeune étudiante chinoise de 15 ans, elle a débarqué, qui fait partie vraiment de la classe privilégiée en Chine. Et 1% de privilégiés en Chine, parce que dans 10 millions de personnes, elle a débarqué à Paris avec son iPad. Je vois pas pourquoi je vous dirais, mais en donnant un petit iPad, tu la fabriques, d'accord, mais je ne pense pas. Donc je dis simplement ça pour dire que ce débat sur le développement, il faut qu'il soit dans le débat sur l'énergie, et notamment dans le débat sur le climat. Puis deuxième chose, je m'arrête, ça n'a rien à voir, ça concerne Laurent, que j'aurais dit, c'est intéressant dans le débat. Je vous montrerai un graphique, c'est un graphique fait par RTE, c'est-à-dire le transport de l'électricité. C'est concernant l'Europe, parce que on parle beaucoup en Europe, on a beaucoup parlé ces derniers temps, depuis la publication de Mathieu, donc on entend très bien dire, des échanges entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne qui sort le nucléaire et la France pressant dans le nucléaire. Alors il y a aussi dans les gens, la France exporte plus d'électricité vers l'Allemagne, et de l'activité nucléaire, et il y a eu un argument contre, finalement, le solde s'est amélioré et retourné en faveur de la France, non pas parce que la France exporte davantage, mais parce que l'hiver a été doux, et la France a moins apporté d'électricité. Or, en fait, j'ai regardé que la réalité n'est pas celle-là. Pas du tout. Voilà un graphique qui représente le solde des échanges entre la France et l'Allemagne dans une période qui n'a rien de grand froid, c'était la période de septembre, qui va être 24 mètres en général. C'est le 7 jours de la semaine, puis 24 mètres pour jusqu'à la fin du 31 septembre. La ligne qui est en vert montré, c'est la production éolienne en Allemagne, donc c'est une période où le vent soufflait de façon satisfaisante, c'est pas mieux. Et la ligne qui est en vert clair, c'est la ligne cumulée de l'éolien et du photovoltaïque, c'est-à-dire celui-ci. Alors qu'est-ce qu'on voit assez naturellement? Eh bien, quand il est midi, c'est-à-dire au milieu du soleil, le soleil brille, il ne brille pas, donc ça est plus fort, c'est donc la production allemande cumulée du photovoltaïque et de l'éolien est assez haute. Et qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Eh bien, on voit que la France, systématiquement, importe de l'énergie allemande, de l'électricité allemande, parce qu'il y a beaucoup de renouvelables en Allemagne. En revanche, quand le soleil se couche, c'est l'Allemagne qui va importer de l'électricité française dans le nucléaire très régulièrement, et en quantité d'ailleurs plus importante. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça prouve, c'est un vieux spécial de l'adversaire bien expliqué, c'est que les échanges d'électricité entre la France et l'Allemagne ne sont plus guidés par la situation de pénurie. On a toujours pendant 4 ans qu'il n'y a plus d'électricité en France parce qu'il fait froid. Alors il y a quelqu'un qui téléphone à un Allemand en disant on va mettre de l'électricité. C'est pas ça du tout. Les échanges d'électricité, ils se font de façon continue tout au long de l'année, de la journée, et selon le prix de l'électricité, selon le rapport entre l'offre et la demande. Quand l'électricité, quand il y a beaucoup de renouvelables allemands, le prix de l'électricité tombe. Il y a même des cas où quand les éoliennes tournent à fond, le prix de l'électricité qui s'échange dans la bourse, la bourse qui s'exploite, le prix de l'électricité tombe à 0 et devient même négatif. En revanche, quand il y a une période de grand froid, le prix de l'kWh peut s'envoler, puisqu'il a atteint lors de la dernière période de grand froid jusqu'à 2000 euros le kWh. Donc des frais d'intégrement considérables. Donc, en tout cas, ce n'est pas faux. C'est que les échanges d'électricité sont maintenant guidés par des considérations d'offres et de demandes de prix et non pas par des situations de pénurie. Or, si on va, et c'est là où je veux en arriver, et puis après je lance mon mouvement, si on va, parce que le cas actuellement de souvent plus vers un marché unique européen,
c'est-à-dire que, bon, nous ne pouvons pas dire avec un petit peu mieux, c'est-à-dire que la France et l'Allemagne ne constituent pas actuellement un seul marché. Les gestionnaires du réseau, actuellement, ils satisfont leur marché sur le surplus qui est échangé avec l'Allemagne. Mais si l'on va, si l'on continue dans cette évolution, on va continuer vers un marché unique, on ne va plus parler d'une mix, d'un mix national, d'un mix français, d'un mix allemand, on ira peu à peu, mais c'est pas tant du temps, vers un mix européen. Et moi, je me souviens très bien d'une déclaration de Claude Mandus, qui était avant la décision allemande de quitter le nucléaire, donc c'est une politique qui est demandée. Claude Mandus, c'est un des meilleurs économistes de l'énergie. Il a été pendant de nombreuses années directeur de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Et donc, il a avancé cette hypothèse très, très, très différente de dire si l'on va vers un marché unique européen, si l'on va vers un mix européen, un mix extrêmement varié, si l'on prend l'histoire, le nucléaire ne va plus représenter 75% du mix français, il va représenter 25 à 30% du mix européen. Si on aura une situation où le nucléaire français qui est puissant fournit une électricité régulière et va pouvoir la distribuer dans toute l'Europe avec une envolée de l'air creuse, etc. Donc en faisant jouer de la puissance sur celui-là, et les renouvelables installés et dans la vie seront utilisés au mieux dans un certain nombre de pays autres que l'Allemagne. Je livrerai ça parce que c'est intéressant de se poser cette question et de ne pas être enfermé dans cette idée le nucléaire français c'est 75%, non c'est 50%, non ça doit aller vers zéro. On est face à des évolutions énergétiques en Europe qui sont considérables. Alors évidemment pour ça, il va falloir créer beaucoup de réseaux à haute tension pour amener l'électricité, d'un pays qui va passer le transfert, ou amener la mer Baltique dans le sud de l'Allemagne. D'avoir des zones de production vers des zones de consommation, il va donc falloir une véritable révolution des réseaux à haute tension en Europe. Et là, évidemment, on peut rappeler aussi les travailleurs citoyens parce que les tuyaux, ils vont bien les faire passer quelque part. Alors, ça m'a semblé intéressant de vous montrer ce graphique. Moi, j'ai trouvé clair un jour très nouveau le débat franco-allemand sur l'énergie. Moi, je propose, parce que sinon, il est 7h10, ça fait 1h50, moi, je suggère de manquer au départ. Parfait.
Merci beaucoup.
C'est la première.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, vous voyez, il y a un petit jour, on peut avancer sur son feuille. Voilà. Et puis, vous prenez.
Autant de recherche, autant d'énergie
au sens de remonter ce qu'on a fait pour le nucléaire, on arrivera à développer l'énergie renouvelable de façon bien plus importante que ce qu'elle est actuellement. Donc on part actuellement sur une idée de ce qui existe actuellement, mais si on se lance, on sait très bien que la recherche va produire des bombes technologiques dans ces énergies renouvelables. En dernier, je voulais savoir justement quel était l'impact du nucléaire sur l'eau. Le nucléaire utilise énormément d'eau pour se refroidir. Vous avez dit qu'il y aurait deux grands problèmes, celui de l'énergie et celui de l'eau. Donc j'aimerais qu'on fasse un petit peu la liaison entre les deux. Merci.
Oui, il y a plusieurs questions. Alors la première, sur le problème des ressources en uranium, vous avez raison, c'est le même problème que les autres, c'est-à-dire ça dépend du rythme par rapport à l'exosomique. Ce qu'on peut dire, ça dépend encore une fois du coût de l'uranium. Quand vous entendez parler de réserve à 70 ans, c'est qu'on prend la branche la plus basse du coût de cet uranium. Et entre 0 et, je vous ai laissé poser votre question, vous allez me laisser répondre, et après je vous redonnerai la parole si vous voulez. Entre 0 et 35 dollars par litre du 108, ça fait tout ça. Mais après, on a des tranches qui vont de 35 à 70, 75, 35 à 140, etc. Et là, effectivement, comme le coût de l'énergie globalement va augmenter, le coût de l'uranium va et peut augmenter, et à ce moment-là, on passe à des réserves à plusieurs siècles. Deuxièmement, il y a ces fameux réacteurs de quatrième génération. Je ne voulais pas faire une conférence sur le nucléaire ce soir. On reviendra faire un jour sur le côté, mais il y a beaucoup de gens aussi qui veulent se faire, mais ça m'arcoule. Je dis, je vais quand même chanter une grande partie de ça. Ces réacteurs de quatrième génération, 3 des 6 types de réacteurs, qu'on appelle donc des réacteurs surgénérateurs, c'est-à-dire où vous reproduisez en réalité du combustible alors que vous en consommez par ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'en fait on refabrique du plutonium du combustible nucléaire à partir de l'uranium appauvri qui est autour en fait du foyer, si je prends là le schéma de superphénie. Et il y a une dernière chose en face sur laquelle donc, on a travaillé lorsque j'étais au conservatoire, j'ai dirigé pendant plus de 20 ans un laboratoire de sciences nucléaires du climat. Il y a l'uranium de Honneur. L'uranium est le deuxième élément en abondance derrière le molybdène, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et il y a 1000 fois plus d'uranium dans l'Honneur qu'il y en a dans les corps terrestres. Et donc, c'est lié à sa chimie, enfin à l'utilisation, une chimie très riche, le molybdène aussi, donc c'est pour ça qu'on retrouve ces éléments-là, en fait, parmi les plus abondants. Et donc, rien n'indique que dans l'avenir, on n'arrivera pas effectivement à les récupérer. Donc ça c'est sur les réserves d'uranium. Vous voyez à quel point en fait ces réacteurs de quatrième génération sont des réacteurs importants et on ne peut, nous Français, que regretter en 1997 la décision qui a été prise par le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, qui était une demande de Dominique Brunet, donc, qui était le ministre vert de l'écologie. On a arrêté en fait un réacteur de quatrième génération. Les Français avaient déjà un réacteur de quatrième génération qu'on a arrêté, et ça veut dire que dans l'avenir, puisque les Américains vont prendre le contrat, on achètera aux Américains des brevets d'un appareil sur lequel on avait 20% d'avance sur tout le monde. J'espère que cette leçon a porté et qu'on ne va pas reproduire par l'avenir les mêmes erreurs. Ceci, donc, c'était sur les réserves d'uranium. Vous voyez, globalement, il n'y a pas de s'inquiéter. Alors, j'avais ensuite l'hydrogène. Vous parlez d'hydrogène. Effectivement, mais l'hydrogène, alors, ça, c'est pas... Je ne trouve pas que ce soit un moyen de stocker l'énergie. Ça peut être un moyen de stocker l'énergie. Je le mets un petit peu, si vous voulez, bien que avec une part beaucoup plus petite, que ce qu'on appelle les barrages aujourd'hui qu'on remonte, comme à grand maison. Quand l'électricité est pas chère, on remonte l'eau dans le barrage, et puis quand on a besoin d'électricité, on fait redescendre l'eau. Mais le rendement, il est forcément mauvais, et là, le rendement aussi, il est mauvais. On peut dire que c'est un moyen, effectivement, à la rigueur, de stocker l'énergie. Les Norvégiens, qui sont très riches grâce à leur gaz et leur pétrole, comme vous le savez, ont installé sur une île, à l'île d'Utsira, l'hydrogène, etc., éolienne et hydrogène. Mais bon, il y a 300 personnes, et puis, encore une fois, ils vont pas regarder à la dépense. Hein. Mais moi, quand je parle de recherche, on va savoir stocker l'énergie à grande quantité, j'imagine des procédés que l'on ne connaît pas aujourd'hui, mais ça permettrait effectivement d'installer des éoliennes dans les déserts, ça permettrait de développer à la rigueur le photovoltaïque dans ces mêmes déserts, etc. Là où justement il y a du soleil, hein, et la condition évidemment qu'on le stocke. que vous dites n'est pas faux. Ça va être un moyen individuel. On peut faire ça dans sa maison. Mais globalement, c'est quand même pas. Donc à l'échelle industrielle. Il y a peut-être une troisième question, est-ce que j'ai oublié en fait. Ah oui. Ah bah. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que l'intérieur utilise beaucoup d'eau, mais enfin l'eau, il la rejette quand même. Hein. C'est-à-dire que globalement, il y a l'eau qui rentre et il sort la même quantité d'eau. Alors elle est un peu plus chaude. Elle est un peu plus chaude, mais elle se rejette. Donc on essaye d'ailleurs d'utiliser, vous savez très bien, on va dire, les calories de ces eaux chaudes, et on a plusieurs applications, dont certaines pas très loin ici, hein, comme vous savez, là. C'est pour ça que je pense, c'est pour ça que je suis assez sensible à ce problème de Fukushima et à ces fameux diesels de secours. Je pense que dans l'avenir, on installera surtout les réacteurs nucléaires en bord de mer. Parce que c'est là que le refroidissement est quand même le plus assez. J'étais très déçu, moi qui suis dans le coin à Flamanville. J'espérais que j'allais pouvoir me baigner dans des eaux qui étaient plus chaudes que les 18 degrés qu'on atteint pénibrement au mois d'août. Et en réalité, quand on a des taux des rejets, ils sont à 500 mètres, avec un débit tel qui est de 43 mètres par seconde, que même à 100 mètres, vous n'êtes même pas 0,1 degré, quoi. Donc ça se refroidit vraiment très durement. Si on doit installer les réacteurs en bord de mer, ce qu'il faut, c'est effectivement être toujours en condition de se protéger d'une vague, on appelle une vague géante. Pas faire les calculs sur les plus fortes marées en rajoutant un peu, comme on faisait, mais nous, dans le corps, là, il y a une vague de 30 mètres qui arrive, et bien il faut qu'on protège. Si on a la chance d'avoir une falaise, on met des délais de chaud dans une falaise, ou bien, si on veut, là, on faut faire des bâtiments essence, et même dans des bâtiments essence. J'ai dit une fois dans une conférence de presse, à l'aspect de cette prise de position que j'avais pris à Flamanville sur ces fameux diesels, dans le nucléaire, on sait quand même faire des bâtiments étanches. Parce que si le sous-marin nucléaire n'est pas étanche, il n'est pas très fort voyager inaugural. Hein. Donc on sait faire des bâtiments étanches. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et les anciens sous-marins, d'ailleurs, qui étaient au diesel, pour qu'on parle de bâtiments diesel, les anciens sous-marins, ils sont bien étanches aussi, ils fonctionnaient au diesel. Donc voilà, ils avaient des générateurs diesel. Donc les grands corps. Donc sur ce plan-là, l'eau, non, ça consomme pas d'eau, ça réchauffe, effectivement, ponctuellement de l'eau. Mais encore une fois, moi j'aurais préféré, vous voyez, même à Flamanville, que ça réchauffe un peu plus.
Ouais, juste ajouter une chose, c'est que dans les scénarios qu'a montré le professeur Fouss, qui sont dans notre livre, nous couvrons la Terre de parties éoliennes, nous couvrons la Terre d'éoliennes. C'est-à-dire, je crois que de fait, l'éolien passe de 0,02 à 3. C'est-à-dire, c'est une politique absolument volontariste et incroyablement forte de développement des renouvelables. Et malgré, même si l'on développe moins, je pense qu'il est assez absurde d'opposer une énergie à une autre. On a besoin de toutes les énergies, absolument de toutes. Et dans les scénarios, on multiplie par plusieurs centaines de fois l'éolien et le soleil.
Alors, une autre question dans la salle ? Pour qu'il n'y ait pas de monopole.
Non.
C'est les ressources que vous avez partout. Moi, une de mes sources, c'est dans tout ce qui se passe. On a cité tout à l'heure l'Agence internationale de l'énergie, c'est la meilleure des sources possibles, et vous avez besoin des ressources en uranium, oui, c'est clair. Non, j'ai dit que là, les chiffres que je vous ai donnés, on passait de 70 ans à plusieurs siècles. 70 ans, c'était le tarif le plus bas. La production est faible. Donc elle peut effectivement diminuer, je suis d'accord avec vous. Globalement, on a plusieurs siècles si le coût d'énergie va augmenter. Et puis après, dès qu'on va passer au réacteur de 4e génération, vous avez bien compris, ou bien si on montre qu'effectivement on arrive technologiquement à aller rechercher l'uranium de haute mer, encore une fois, on vous dit que c'est une source abondante d'uranium, bien plus que dans les coques, alors là on ne se pose plus. On peut développer, on pourrait faire 1000 fois le nombre de réacteurs qu'on a mis là et on aurait toujours de l'uranium. Ah non, il n'est pas question. Il faut se mettre dans les courants, bien évidemment. Bien sûr, oui, il n'est pas question de pomper l'eau de mer pour aller. Ah non, ça, évidemment. Non, non, on a quand même pensé à ça. Oui,
vous voulez rebondir sur ce qui vient d'être dit, vous avez été très optimiste sur les renouvelables. Hein, et finalement,
banques, leur banque, à la fin, vous confierez ces banques en disant, bah, ça, ça peut être grondé que par le nucléaire. Vous avez rapidement dit, mais il faudrait construire une centrale par an, qui habituellement arrive vite. C'est juste en faire le grand pas.
Bien sûr.
Et je reste un peu sur la fin, qui était le cœur du débat là-dessus, et on est, ça, quelque part, ça fait pas de compte, quoi.
Bon, non, c'est exact que ça ne fait pas compte, mais donc j'ai pour montrer que de toute façon, c'est ce que vient de dire Yves Jacob, c'est-à-dire que on se pas, la planète ne peut pas se permettre de se passer d'une source d'énergie quelle qu'elle soit. Voilà. Elle va être confrontée effectivement à ce problème-là. Hein. Alors je sais bien dans les débats que j'ai des fois avec le Roland Nucléaire, ils disent, ah bah oui, bah, le débat je vais faire bronche, hein, que vous pouvez écouter encore, c'était sur France Culture. À dire maintenant, il n'y a pas de problème, il suffit que les pauvres ils restent pauvres, que les pays que les pauvres ils restent pauvres et tout va bien. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, je suis désolé. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Pour moi, chacun a droit à au moins un minimum. Le problème, c'est que quand on est 7 milliards et qu'on sera au moins 10 milliards, ça fait quand même une quantité d'énergie importante. Et il faut développer toutes les sources d'énergie au maximum. Il faut se moquer d'aucune source, là. Il y en a qui sont encore des sources exotiques d'énergie. Bien, il faut y aller. Maintenant, le CEO, d'ailleurs, c'est plus commissaire à l'énergie atomique, hein, c'est commissaire à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. C'est-à-dire qu'on a demandé au CEO de mettre toute sa puissance, effectivement, de recherche et de biotech, depuis 50 ans, ou même plus, ils ont fait vraiment le maximum de ce qu'ils pouvaient, au service aussi d'autres énergies. Ça, ça laisse au bureau, effectivement, donc, des points positifs pour la vie.
Si je peux compléter ça, je reviens sur une question de monsieur qui voudrait dire quelque chose. Il a dit, si on avait mis la même énergie sur les renouvelables que sur le nucléaire, on aurait pu faire au moins aussi bien. Eh bien, l'expérience a été faite, c'est que je retrouve les données, je les ai je peux retrouver dans mes archives. Il y avait une comparaison qui a été faite sur l'argent investi aux États-Unis aux renouvelables entre 70 et 95. C'est le même que ce que la France avait investi en nucléaire. Le résultat, après 25 ans de recherche, en énergie produite, c'était 5% de ce que produit par nucléaire, c'était produit par les renouvelables aux États-Unis dans la fin des années 90. Donc, l'exercice avait déjà été fait, avait déjà montré les limites. Ce que je trouve qui manque dans ton exposé, si je peux me permettre, c'est que tu ne fais aucune analyse économique. Tu pars comme le renouvelable à fond la caisse, de toutes les pistes possibles et imaginables, mais à aucun moment il y a une analyse économique.
Donc c'était volontaire, c'était pour dire, voilà, on prend l'énergie, génie, on n'a pas les idées sur le coût du mégatel à un moment donné, effectivement, et les coûts sont très, très, très différents, mais je ne suis pas rentré là-dessus.
Oui, alors, moi, je voulais, évidemment, si on part sur vos principes, c'est de vous, mais il n'y a pas de problème. Simplement, il y a quand même quelque chose qui ressort de tout ce que vous avez dit. C'est que tout ce que vous avez dit, on a coutume de dire qu'il n'y a que deux types de personnes qui n'ont pas de limites sur les phénomènes, ce sont les fous et les économistes. Et je pense à la fois qu'il y a aussi les énergéticiens, quoi. Hein. Pourquoi? Parce que ce que vous montrez en réalité, et vous venez de le dire, c'est qu'on est sur des flux tendus, on est sur des limites. Et qu'on est en train d'atteindre certaines des limites. Ce qui veut dire quoi? Que ça rejoint les problèmes que vous posez, les problèmes économiques. Alors vous en avez parlé en termes de répartition par le marché. Eh bien voilà un problème déjà. Il sera dans l'avenir impossible de se servir du marché comme répartiteur de ce type de phénomène. Ça ne pourra passer que par une planification, une organisation politique. Deuxièmement, ça pose quoi? Dans la mesure où on atteint les limites, ça pose le problème que vous souligniez. Après, on ne peut pas empêcher les gens de se développer. Enfin, au nom d'une éthique, on ne peut pas dire des gens de nous développer pas. Par contre, on peut introduire le débat sur le mode de développement et sur les objectifs de développement. On peut, nous, puisque nous avons l'expérience et nous avons l'expertise, dire si on se développe de cette manière, ça va être impossible. Et l'humanité va au grand conflit du 21e siècle. Ça, on peut le dire d'ores et déjà. Voilà, déjà deux questions. Un, on ne peut pas faire confiance au marché sur la répartition de l'énergie. Donc, ce doit être des politiques publiques qui doivent être créées au niveau européen par exemple. Deux, ça ne peut pas, on ne peut pas continuer sur le mode de développement. Il faut décroître sur un certain nombre de choses, il faut de la décroissance sélective sur un certain nombre de choses, sinon tout ce que vous avez posé ne résoudra jamais les problèmes.
Juste répondre, je ne vais pas faire l'apologie du marché, je vais faire spécialiste du marché. Je ferais quand même remarquer que sur ce graphique-là, le marché joue plutôt un rôle positif. Puisqu'il, dans une optique de marché unique, il confère à l'Europe un mix électrique extrêmement varié. Et ce mix extrêmement varié permet d'utiliser au mieux le vent quand il souffle dans un coin de l'Europe pour le répartir partout. Et utilise au mieux la puissance nucléaire en permettant de lui faire jouer le rôle de base dans toute l'Europe. Donc là, le marché a un rôle d'optimisation, si vous voulez, des sources européennes d'énergie. Sinon, le marché, il a effectivement des défauts et ou des qualités. Comment vous résolvez avec une approche planificatrice la question du gaz de schiste? Le gaz de schiste s'est développé considérablement aux États-Unis. Il a créé là-bas une véritable révolution qui fait que le prix du gaz est actuellement aux États-Unis d'environ 2 ou 3 dollars. Je ne sais plus si c'est des TTU, c'est des unités comme ça. 2 ou 3 dollars. Il est à 10 en Europe et à 15 en Asie. Comment on résout à un niveau planétaire les différences du prix du gaz dans cette situation-là? Parce que le gaz de schiste, je parle. Hein. Mais d'ailleurs pour l'instant les États-Unis n'exportent pas leur gaz de schiste. Peut-être qu'ils le feront, pour l'instant ils l'utilisent. Ce qui d'ailleurs vous savez a deux effets. C'est un de faire reculer le charbon, l'utilisation du charbon, car on oublie, on pense que le charbon c'est fini. Aux États-Unis, 40% de l'électricité est faite à partir du charbon. Le gaz de schiste fait reculer le charbon. La deuxième chose, c'est qu'en mettant le prix du gaz bas, il y a des entreprises qui se relocalisent aux États-Unis. C'est-à-dire qui retournent aux États-Unis. Voilà. En tout cas, voilà des effets. Alors, je me souviens d'une époque où on disait il est interdit d'interdire. La prochaine question, c'est qu'elle est en haut, alors.
Moi, je pensais que c'est pas la seule. Mais bon.
Alors, on va laisser plusieurs autres exprimer. Donc, monsieur, là-bas, à micro.
Bonjour. Je voulais intervenir essentiellement sur l'objet de votre conférence. Peut-on sortir du nucléaire ? Qui conclut à un mot que vous avez placé à un moment donné, c'est irremplaçable. Donc on est dans cette logique-là. Or, comme vous le savez, vous particulièrement, ainsi que tous les gens qui ont un petit peu de conscience technique, l'accident majeur va arriver en France, statistiquement, c'est indiscutable. Donc ça veut dire tout simplement que la sortie du nucléaire, comme au Japon actuellement, elle est irrémédiable. Quand à Tricastin, Cruas, ainsi de suite, on aura un accident majeur, je vous prie de croire que les réacteurs sont tous arrêtés comme au Japon actuellement. Vous savez qu'il en reste un sur les 54 et qu'il n'y en aura plus aucun en service au Vendoux. Voilà. Donc, le Japon est sorti du nucléaire en quelques mois et bon, ils ont géré les problèmes d'une certaine comme ceci. Bon, alors, ça c'est sur la sortie nucléaire impossible, l'irremplaçable nucléaire, selon votre discours. Alors, d'ailleurs, selon la même logique, vous partez d'hypothèse dans votre raisonnement, vous dites, voilà, on va produire de l'énergie de telle ou telle sorte, on rajoute le nucléaire bien au-delà d'ailleurs de ce qui serait nécessaire, et on n'y arrive pas. Donc, ce qui signifie, à contrario, quand on a un petit peu l'esprit logique, que les hypothèses ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que les hypothèses qui partent sur le développement que vous engagez, c'est-à-dire un développement complètement qui aboutit aux crises mondiales, qui sont les crises mondiales actuelles, ça ne marche pas. Dernier point, il y existe une autre manière que la manière jacobine des scientifiques français de penser l'énergie,
c'est la relocalisation de l'énergie. Les mix énergétiques locaux, ça existe. La micro-hydroélectricité, ça existe. Les micro, il y a des villes, vous savez, ça va quand même, une ville comme Freiburg est quasiment autonome énergétiquement. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire.
Bien. Simplement pour. J'attends que monsieur tout le monde applaudisse, vous tenez tout seul à applaudir pour qu'on entende tout. Merci.
J'ai vu
que, comme d'habitude, les opposants du tiers se répartissaient dans toute la salle pour savoir qu'ils étaient plus nombreux que les autres et qu'ils monopolisent la parole dans le débat.
Je vais faire la fois, donc je continue. Simplement,
vous n'avez pas entendu du tout le mot irremplaçable. Le mot irremplaçable.
J'ai dit
que la planète était contrainte de continuer à l'histoire. Ma progression de foi là-dessus, ou la vôtre, comme moi, c'est qu'effectivement, il va y avoir des problèmes d'énergie dans la nuit, sur la planète, c'est clair. Et comme il l'a dit tout à l'heure, de toute façon, toutes les sources d'énergie sont bonnes. À partir de là, est-ce que des pays comme les autres, qui ont la meilleure expérience sur cette industrie nucléaire au monde, doivent laisser les Coréens, les Chinois, les Indiens, les Brésiliens s'emparer, et les Russes, s'emparer du marché? Voilà. Est-ce que même pour les raisons de sûreté nucléaire, est-ce que c'est concevable, convenable, etc.? On ne le pense pas. Bon, c'est tout. C'est-à-dire qu'on pense que nous qui avons effectivement une excellente expertise dans nos réacteurs, qui sommes en démocratie, qui avons une autorité de sûreté nucléaire qui est parmi à la fois indépendante, tout le monde le reconnaît forcément, et aussi compétente, à partir de là, nous avons une excellente expertise dans ce domaine-là. Est-ce qu'on doit l'abandonner pour laisser tous ces pays dont je viens de parler s'emparer du marché nucléaire, parce que de toute façon, la planète, elle est contrainte, c'est ce que je vous ai dit, de toute façon,
c'est
toutes les sources d'énergie, y compris le nucléaire. À partir de là,
selon vos hypothèses. Voilà.
Il faut voir depuis 15 ans comment ça évolue, de toute façon. Hein.
Ça ne peut pas s'arrêter.
Et alors, simplement quand vous parlez d'accident majeur, personne n'a jamais dit qu'un accident majeur n'était pas possible dans une centrale. Quand vous dites que ça va arriver en France, vous avancez peut-être beaucoup.
Je ne crois pas.
Vous pouvez espérer que ça n'arrivera pas. Et on a toujours été à un stade tel qu'on a toujours envisagé d'ailleurs cet accident majeur. Quand on regarde effectivement toutes les barrières que l'on met, toutes les contraintes que l'on se donne, qui sont des contraintes bien plus importantes que les réacteurs au Japon, je pense au fameux filtre à sable qu'on a sur les centrales. Si le réacteur de Fukushima avait été équipé de ces filtres, il n'y aurait pas eu de contamination dans les moments. Il était obligé effectivement de relâcher pour des problèmes de pression. Ils auraient eu ces filtres, il n'y aurait pas eu de contamination des climats. Donc le décret, ne vous inquiétez pas, je vis dans une région où il y a des réacteurs nucléaires.
Est-ce que vous êtes prêt à être inscrit sur la liste des liquidateurs le jour où l'accident va arriver? Est-ce que vous êtes prêt à assumer le fait qu'en étant en blanc compte? Bien sûr.
Ça, c'est clair.
C'est ça. Donc, vous serez parmi les gens qui vont jeter du béton sur la centrale.
À mon avis, on n'est pas du tout là où vous êtes en train de parler de Tchernobyl, qui n'a rien à voir pour mais je peux vous dire que ma mission auprès d'ici, ma mission d'expertise, etc., je l'assumerai tant que j'aurai les neurones qu'il faut et la
pas
des
neurones.
Ce n'est pas ça qu'on va.
Est-ce
que vous irez sur le chantier?
On n'aura jamais à faire ça chez nous. On parle de réacteurs qui sont complètement différents. Juste un mot, en dehors de la sûreté nucléaire, juste un mot sur la localisation de l'énergie. Moi, je suis tout à fait favorable à toutes les localisations de l'énergie. Vous donnez, c'est très bien. Simplement, il ne faut pas oublier de vous donner l'exemple de Fribourg. Est-ce que véritablement l'autonomie de Fribourg assure d'une part le déplacement des gens qui sortent de Fribourg pour aller ailleurs et ceux qui viennent d'ailleurs pour venir à Fribourg?
par avion, par voiture, par tout ça. D'autre part, est-ce que cette autonomie assure la construction des hôpitaux, des universités qui ont fait la ville de Fribourg? Parce que là, on parle, toute la relocalisation est souhaitable, mais est-ce qu'elle assure véritablement le développement mondial, c'est-à-dire les relations entre une ville et son extérieur? Et puis, ce que je dois dire aussi au niveau de l'énergie locale, c'est que là aussi, il y a toute une partie d'exposé qui n'a pas traité de l'économie, mais que le coût diminue avec la taille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des éoliennes qui sont plus grandes qu'un Boeing, pour avoir un coût de l'éolien du kilowattheure qui a baissé. Mais plus elle est petite, plus le coût du kilowattheure, et c'est vrai pour les réacteurs nucléaires, c'est vrai pour absolument toutes les énergies. Et si on ne prend pas en compte l'aspect économique, eh bien, on va se rendre compte que on va rappeler quelque chose, mais qui économiquement n'est pas viable. Donc aujourd'hui, pourquoi on fait des éoliennes de 5 MW? C'est pour essayer de baisser le coût. Si on était très très grande, et faire des choses au niveau de la maison, ça a un coût économique qu'il faut estimer, qui est en gros 10 fois le prix de quelque chose de masse centralisée. On peut très bien comprendre si on sort une voiture en chaîne, je ne sais pas combien de parents d'une chaîne, ou je la monte dans son garage, le coût sera pas net.
Moi, c'est ma question, c'est un commentaire. Donc, je voudrais revenir sur les dangers du nucléaire. Alors, il existe une étude qui a été faite par la Commission européenne en 1994 et en 1998, c'est des coûts externes des énergies. Le coût externe d'une énergie, comme vous avez le coût pour payer dans votre facture, c'est le coût externe de la pollution, c'est des gens qui se prélèvent, c'est des gens qui tuent pour produire cette énergie. Alors c'est un peu macabre comme étude, mais c'est les années de vie perdues par kilowattheure. Alors qu'est-ce qu'on voit dans cette étude qui a été faite par la Commission européenne? Donc a priori, une étude relativement Alors le charbon, il est 122 années de vie perdues par kilowattheure. Bon, ensuite, non, c'est même pas le pire, parce que le fioul est pire. Parce que le charbon, parce que vous avez la pollution, vous avez les meilleurs tissus, ça fait 122 années de vie perdues par kilowattheure. Le fioul, c'est 150. Le gaz, c'est 32. La biomasse, c'est 77. Alors, pourquoi la biomasse, c'est 77? Parce que ça fait de la pollution partout, ça fait des feux, ça fait des poussières, donc ça fait des gens qui, effectivement, restent dans les poussières, et donc ça fait perdre de l'énergie. Donc le gaz, c'est 32, j'ai dit. Le photovoltaïque, c'est 12. Pourquoi 12? Ben, parce qu'il faut construire des panneaux photovoltaïques, il faut les installer sur les toits, les gens qui se cassent la figure, donc ça fait 12 l'énergie perdue par kilowattheure. Le nucléaire, c'est 9. C'est moins que le photovoltaïque. Et l'éolien, alors l'éolien, effectivement, c'est une bonne bombe, c'est 6, donc c'est l'éolien qui a gagné. Mais vous voyez que le nucléaire, actuellement, le danger du nucléaire, alors ces études-là incluent Tchernobyl. Ça inclut les morts de Tchernobyl. Ça n'inclut pas.
Avec l'étude de l'OMS, il y a.
Ça n'inclut pas, pardon, ça inclut les cancers, ça inclut tout, ok? Cette étude-là, inclut Tchernobyl, n'inclut pas Fukushima. Mais comme Fukushima, ça a fait zéro mort pour le moment, Fukushima, ça n'a pas modifié ces chiffres-là. Donc, cette étude réalisée par l'Union Européenne, écoutez, elle a été réalisée par l'Union Européenne. Oui, mais allez voir, cette étude s'appelle externe.
Donc, j'ai déjà lu, oui.
Elle donne ces chiffres-là.
Et on y croit.
Très bien. Monsieur, je rappelle que derrière chaque eurodéputé, il y a 7 lobbyistes.
Voilà. Exactement.
Ensuite, l'alimentation qui vient d'être faite, dont je souligne la qualité didactique, est un modèle industriel productiviste. Je rejoins l'intervenant ici. Il faut absolument insister, un, sur la sobriété, retrouver des modes de fonctionnement humain déchargés de la consommation d'énergie. Vous l'avez dit, il faut absolument souligner. Et deux, il faut favoriser la possibilité pour toute personne d'accéder à de l'énergie de façon locale, je dirais même micro-locale. La solution, elle est là. Ce n'est pas dans des grands systèmes industriels productivistes qui mettent en jeu des grands groupes qui vont faire des grands profits qu'on arrivera à satisfaire les besoins d'une population
c'est sûr, galopante. C'est pas comme ça. Il faut que chacun se responsabilise et qu'on y arrive de cette façon-là. Que faites-vous aussi, dernier point, du très récent rapport de la Cour des comptes?
Votre argument est sans doute valable dans un pays développé. Moi, je ne peux pas le défendre dans un village indien. Il n'est pas possible.
Et c'est pour ça que
c'est là qu'il le fait. Il n'est pas possible. Alors que vous savez comme moi, il n'est pas possible d'aller dans un pays émergent et d'expliquer qu'il faut faire preuve de sobriété et aller vers des solutions énergétiques micro-locales. Car il faut installer dans ces pays des hôpitaux. Il faut améliorer la production alimentaire et vous ne le faites pas simplement avec du micro-local. Tous les ans, des scientifiques, des jeunes scientifiques, des jeunes techniciens participent à des programmes avec des ONG pour aller mettre en place de la micro-hydraulique, pour aller mettre en place des réseaux d'énergie, pour aller mettre en place des systèmes qui approvisionnent en Asie, dans certains pays d'Afrique, ces villages, ces zones rurales, ces zones reculées. Ça existe, ça doit être généralisé. C'est quelque chose qui est complémentaire, mais vous n'assurez pas avec ce micro-développement la constitution, la construction d'hôpitaux et d'universités.
Mais ils n'ont pas besoin d'hôpitaux, ils ont d'ailleurs besoin, ils ont des
plans. Pour ça, il vous faut du ciment, il vous faut de l'acier, il vous faut
des choses.
Alors, ici, d'accord, la question. Moi, je vais partager la parole entre les différents. Donc, il y a un monsieur là, qui attend depuis un moment.
Oui, alors, d'abord merci. C'est toujours amusant ce genre de débat avec un risque nucléaire qui tend vers zéro et des conséquences qui tendent vers l'infini. Le produit des deux en mathématiques, c'est toujours compliqué à faire et ça fait des débats très riches. Je réagis plutôt aux productions micro-locales qu'on entend et qui sont certes très séduisantes. Moi-même, j'ai mis deux poules pour éviter, dans mon jardin, pour éviter de faire passer les camions poubelles. Par contre, il y a quand même une limite à ça et peut-être que vous auriez pu l'aborder dans votre exposé parce que je ne l'ai pas trouvé, c'est que la tendance à la civilisation est à aller vers l'urbanisation. L'urbanisation, ça fait beaucoup de monde dans les villes et je ne vois pas comment on peut mettre du micro-éolien sous son toit, faire sa biomasse dans sa cave ou faire ça. Et délocaliser les éoliennes en bord de mer, c'est certes séduisant, mais on se trouve avec un problème de réseau électrique qui me paraît assez insurmontable. Donc j'aurais bien aimé voir ça dans votre exposé, j'ai trouvé par ailleurs très didactique. Peut-être que c'est le temps qui ne vous a pas permis de l'aborder.
Il y avait des choix à faire, mais l'urbanisation, j'en ai parlé quand même, quand je vous ai parlé du thermique, en disant qu'une ville d'un million d'habitants nécessitait 1 gigawatt de puissance électrique, et qu'il y avait ce thermique, effectivement, qui pouvait faire ça. Et alors, j'ai bien insisté sur l'urbanisation. Donc ces villes de plus d'un million d'habitants, vous avez aujourd'hui 2 milliards d'individus. Hein. Donc, et le thermique, c'est le thermique classique, c'est le combustible fossile, ou c'est le thermique nucléaire, il n'y a pas le choix. Hein. Donc, thermique, c'est ça. Donc, effectivement, chacun avec une
éolienne.
Moi, vous l'avez dans la classe, c'est quand même pas très adapté. Je suis d'accord.
Oui, voilà, j'ai une question peut-être un peu plus égoïste, entre guillemets. C'est un rapport forcément avec l'argent. Financier. Bon voilà, moi je viens d'acheter une maison du côté d'Avignon, donc ma question c'est est-ce que dans le coût de l'électricité tel qu'on connaît, il est inclus, si jamais il y a un accident, continuer à rembourser mon loyer, j'imagine, enfin d'après ce que j'ai entendu ce qui se passe au Japon, je voulais savoir si en France c'est la même chose, si il y a un accident, j'aurai encore.
C'est
ou bien si l'État français et EDF a prévu pour justement
les gars,
toute la population.
Alors, ça c'est quelque chose auquel, effectivement,
je donnerai peut-être la parole après que de l'utiliser.
Il y a des populations qui sont en fuite. Je parlais de Flamanville tout à l'heure, et c'est sûr que les questions viennent là-dessus, de tous les agriculteurs, les troupeaux de vaches, etc. Alors, des indemnisations, c'est l'État qui indemnise effectivement à ce moment-là. Mais je sais que c'est en cours aussi de discussion. Nous avons fait dans nos commissions, en fait, donc on a créé, pour vous parler de votre maison, je vous parlais de nos commissions. Donc on a créé effectivement dans les groupes de travail pour poser des questions effectivement à tous les exploitants. Et ces questions-là reviennent, c'est clair. Et on est en
en période d'audition aujourd'hui, mais qu'on fait nous dans le Cotentin, et c'est évidemment au niveau de la France. Je vais donner la parole à Yves qui a assisté effectivement à une réunion là-dessus.
Oui, je pense que vous posez une très bonne question, parce que je crois que ça fait partie d'un des enseignements de Fukushima. Enfin, en tout cas, moi, d'après ce que j'ai entendu discuter. Parce que, il y a dans Fukushima deux enseignements. Le premier, c'est de trouver des moyens pour empêcher l'accident. On l'a dit, penser l'impensable, donc monter les centrales, mettre les moteurs à l'abri de l'eau, tout faire, imaginer toutes les catastrophes extérieures, naturelles, ou bien les attentats, etc., pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et il y a un deuxième enseignement à Fukushima, c'est que quand il y a un accident, là, le fait qu'une zone soit contaminée, comme c'est le cas autour de Fukushima, et sans doute pour plusieurs décennies, c'est quelque chose qui est socialement inacceptable. Ça a été le cas à Tchernobyl, mais Tchernobyl, c'est dans un pays beaucoup plus éloigné, etc. Beaucoup plus, où on ne mesurait pas ce problème-là. Au Japon, dans un pays très développé, dans un pays densément peuplé, l'appareil, effectivement, la contamination d'une zone est régulière, mais quand même une contamination très forte, c'est quelque chose d'inacceptable. Je pense que les Japonais sont traumatisés par cette contamination. Le fait que des familles aient été obligées de quitter, d'être exilées dans leur propre pays, de laisser leur maison, de se poser le problème de l'indemnisation que vous posez, quelque chose qui n'est pas acceptable. Les autorités japonaises, je crois, en sont conscientes, elles sont en train d'essayer de décontaminer les zones et vont y mettre sans doute des sommes considérables parce qu'ils veulent revenir à un niveau zéro. Simplement, ça va prendre du temps et ça va coûter énormément d'argent. Donc je crois que dans la réflexion, parce que j'ai entendu des responsables d'EDF, parce que je suis évidemment pas le porte-parole ici, j'ai entendu des responsables d'EDF se poser cette question. Il est inimaginable, enfin on ne peut pas vivre avec une source d'énergie qui peut provoquer l'exil de population dans un réseau de 20 km ou 30 km autour. Ce n'est pas socialement acceptable et donc il faut trouver les moyens pour empêcher la contamination extérieure quand l'accident improbable se produit. Et d'ailleurs il faut aider deux objectifs qui sont zéro accident et zéro contamination. Et je crois que à EDF, en tout cas, ils ont réfléchi sous deux angles, à la fois l'angle technique, c'est-à-dire il faut trouver des moyens, lorsque l'accident se produit, de faire qu'il n'y ait pas de rejet à l'extérieur. C'est l'idée des filtrateurs, c'est l'idée des chambres de recomposition, recombinaison des rejets. Il n'y avait pas de filtrateurs, par exemple, à Fukushima, qui a provoqué effectivement des émissions extérieures sur l'air. Donc il y a des solutions techniques. Il y a une deuxième chose à prévoir, c'est une meilleure, et qui est un enseignement de Fukushima, c'est une meilleure maîtrise dans les 24 premières heures d'un accident. À Fukushima, on voit bien, et qu'il ne s'agit pas d'accueillir les satellites, qui est en plus dans une situation épouvantable de tremblements de terre, de tsunami, de choses, de pays dévastés. Mais il est bien évident qu'ils n'ont pas pu maîtriser dans les premières 24 heures. C'est un problème de prise de décision. Faut-il, par exemple, annuler une mer pour refroidir les forêts, bien lui, 3-4 jours pour la prise de décision. Et quand on prend des décisions dans les 3 ou 4 jours, c'est beaucoup trop long. Et à ce moment-là, il y a des choses de contamination extérieure et qu'on ne peut plus reprendre le contrôle de tout ça. Et je crois que l'EDF, c'est beaucoup, encore une fois, c'est un désengagement. On peut réfléchir beaucoup à cette question, parce que la notion, par exemple, d'une force d'action rapide qui a été créée par l'EDF vise à assurer la reprise du contrôle dans les 24 heures. Parce qu'il y a cette idée qu'une contamination extérieure de large territoire, ce n'est pas socialement acceptable. Alors évidemment, les antinucléaires vont dire, voilà bien la preuve que puisque l'accident est inévitable, ça ne va pas marcher. Là, il y a, face à la vie, il y a une espèce d'optimisme pessimiste. On peut considérer que la science, c'est quelque chose qui fait faire du progrès. Il y a nos générations passées, la nôtre et celle de nos enfants, qui vont maîtriser ce genre de technique. La radioactivité, découverte par Jeremy Cohen, a été maîtrisée par les générations qui ont suivi. Vont maîtriser ces problèmes et arriver à la zéro contamination, même en cas d'accident nucléaire.
Est-ce qu'on continue à donner le prêt? qui sont prévues. Donc déjà, il y a des fonds prévus.
Oui.
Et
fonds prévus,
vous achetez pas depuis plusieurs années, l'énergie renouvelable est financée par le citoyen que nous sommes et par le client de l'aide que nous sommes. Donc, globalement, bon, ça existe déjà.
On va continuer à partager d'abord ici et ensuite là-bas. Quand les messieurs viennent
J'avais juste deux petits commentaires après une petite question. Le premier commentaire, c'était concernant. J'ai déjà vu plusieurs conférences sur les enjeux de l'énergie, sur la géopolitique de l'énergie et autres. Celle-là, j'ai pas pu faire le commentaire, j'ai jamais trop pu faire. Au niveau des rendements éoliens, et au niveau notamment de l'ordre cosmique, il faut 2000 éoliennes pour remplacer un EPR. Souvent, on se base sur l'état actuel des choses. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, on ne se base pas sur le fait de déplacer idéalement, ce qu'il faudrait faire, bien entendu. Et on ne se base pas non plus sur le fait que parfois les éoliennes sont arrêtées, justement parce qu'on n'a pas optimisé les échanges entre les pays et autres. C'est des choses sur lesquelles on peut un peu remédier, peut-être que du coup dans les scénarios, il faudrait certainement un peu moins d'éoliennes. Bon. Ça c'est peut-être un commentaire. Le deuxième, là, c'est sur la langue et la santé publique. Souvent on dit, peut-on arrêter le nucléaire déjà pourquoi on voudrait l'arrêter? Non, c'est un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que si, sans vouloir minimiser Fukushima et Tchernobyl, ça va un peu choquer ce que je vais dire, si on raisonne en zone d'exclusion, lorsqu'on habite dans les grandes villes, on dépasse les valeurs limites, que ce soit de l'OMS, des directives européennes ou des textes européens, les microgrammes par mètre cube en poussière, ils sont largement dépassés, la France se fait retoquer tout le temps. Donc pour ne pas avoir les 30 000 morts par an liées à la pollution atmosphérique, on devrait mettre tous les centres-villes en zone d'exclusion. Ça c'est juste une petite remarque qui effectivement ne justifie pas le fait de ne pas faire que d'un nucléaire du moment qu'il y a une contamination à l'aide d'une fusion, mais on pourrait aller dans ces cas-là beaucoup plus loin, en fait, voilà une petite remarque. Et la question que je pose, donc il y a certaines sources d'énergie peut-être qui n'ont pas été évoquées, mais vous l'avez dit effectivement, est-ce que, notamment au niveau des algues, on en entend beaucoup parler, est-ce que c'est une source d'énergie, je crois que c'est pas dû apparaître,
Gigatel
peut-être pas, ça c'est quand même beaucoup, mais je vous ai clair, toutes les sources d'énergie sont de la France. Hein. Donc il n'y a pas d'exclusif du tout dans notre esprit là-dessus. Hein. Sur les réflexions comment que vous avez menées, oui, c'est certain qu'on s'en installe beaucoup d'un côté et on parle pas beaucoup des autres solutions par ailleurs. C'est clair, mais je remercie M. le président de nous avoir monté effectivement les accidents par les garrotés ou par tout ce qu'on avait tout à l'heure sur
l'énergie.
Oui, j'habite depuis 35 ans dans une commune qui héberge une centrale nucléaire, j'ai même été conseiller municipal. Celle-ci marre toujours dans le débat sur le nucléaire, une polarisation, la bipolarisation totale, c'est-à-dire qu'il y a les pour et les contre, il n'y a pas moyen de se parler. C'est de là monopolise la parole, et il y a des autres comme moi qui suis là pour essayer d'apprendre, d'écouter, notamment pour le jugement, on a du mal à poser la question. Donc la question, j'en ai deux en fait, pour être précise, c'est est-ce que dans votre schéma, vous avez inclus la voiture électrique ou pas? Parce que vous nous avez dit à un moment donné qu'il y a eu du pétrole en 2050, je crois. Donc, est-ce que vous avez inclus la voiture électrique? C'est la première question. Et la deuxième question qui me travaille depuis un moment, c'est mais comment font les Japonais? Est-ce que vous avez des questions sur les réponses? C'est-à-dire, comment font les Japonais après cet accident? C'est-à-dire qu'on nous dit que tous les réacteurs sont arrêtés. Ils ont baissé leur niveau de chauffage. Enfin, est-ce que vous avez des éléments plus précis que ça pour nous dire ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi, pour la situation tranquille?
Alors, la voiture électrique est incluse, si je puis dire, effectivement, dans le mix énergétique que vous avez vu. Ça fait, c'est la part d'électricité, en fait. C'est pas énorme, hein, si vous avez un parc électrique relativement important. Ça correspond à une fraction de réacteurs nucléaires, hein, d'avoir un parc important de voitures électriques. Donc c'est pas énorme en termes de consommation énergétique, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Hein. Alors deuxièmement, moi j'ai écrit dans les chroniques que je fais,
que je pensais que les Japonais, malheureusement pour eux, on peut dire ça comme ça, étaient contraints de continuer le nucléaire. Pourquoi? Ils n'ont pas de ressources énergétiques du tout, hein, et ils n'ont pas de surface. Or, qu'est-ce qui produit le plus de kilowattheures par mètre carré? C'est le nucléaire. Hein. Donc là on est au Japon sous les motions, hein. On vient de dire les nouvelles il y a deux jours, c'est pas un réacteur, c'est plusieurs réacteurs, ils redemandent à redémarrer, parce que c'est qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, ils posent des questions, un, ils importent effectivement énormément, et ils font tourner leur truc au gaz, le plus qu'ils peuvent. Hein. Et troisièmement, ben, ils font des économies d'énergie aussi, de façon drastique, on a vu, hein, 30% c'est pas vrai. Et voilà, donc ça c'est plutôt bien, de faire des économies d'énergie, mais je veux dire, faire du gaz, c'est quand même pas si bien que ça, et donc, forcément, ils ont 54 facteurs, bon, ils en restent 50, on va dire, et donc, ces 50 facteurs, ils vont bien démarrer, c'est sûr. Maintenant, ils vont bien démarrer, probablement, dans des conditions meilleures, c'est-à-dire qu'ils vont quand même, j'espère, tirer les leçons de Fukushima, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un pays où la sismicité est très forte, et qui n'a rien à voir avec la sismicité qu'on a, fort heureusement pour nous, dans notre pays. Il n'y a pas de commune mesure.
Je voulais vous remercier d'avoir fait la démonstration qu'en une heure, on pouvait pas faire un exposé vraiment complet sur l'énergie, tellement le sujet est complexe, c'est vrai. Et je vous remercie d'avoir montré qu'en une heure, on ne pouvait pas faire un exposé sur un sujet pareil. Parce qu'il y a plein de trous dans la raquette.
Il n'y a pas de trous dans la raquette, j'ai été obligé de faire des trous dans la raquette.
Oui, bien sûr, mais je veux dire, c'est une histoire possible en une heure. Parce que j'ai entendu que trois points prise de la fête du CO2, parce qu'il y a quand même un malaise, c'est-à-dire un enfant de 10 ans qui regarde la planète Terre comment elle fonctionne, il se dit pourquoi on ne taxe pas le CO2, parce que la probabilité d'avoir un problème elle est quand même de 1 avec sa sœur, enfin quand je dis CO2 c'est tous les gaz à effet de serre, méthane, machin. Donc d'un côté vous avez la certitude d'avoir des gros problèmes, et d'un autre côté vous avez une chance sur d'avoir un petit problème limité un jour. Donc le choix est vite fait, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, tout ça. Donc on n'y arrive pas. Deuxièmement, il y a un aspect qui est terrible, c'est que le pétrole et le gaz, c'est une économie de rente. C'est-à-dire les producteurs de gaz et de pétrole, c'est pas du... ils ne sont pas dans un système économique où ils travaillent. Ils vendent le pétrole, il sort de Sibérie à 2 $, faut le transporter. Et après, tout le reste, c'est du bénéfice qui va dans la poche de la Russie. Donc, ces gouvernements, ils sont pas rationnels. C'est-à-dire que tout ce qui est énergie, gaz, pétrole, c'est de la géopolitique. On n'est plus dans l'économie, on n'est plus dans la raison. Et puis, troisièmement, il faut insister sur le fait que le nucléaire, paradoxalement, c'est bien pour alimenter les villes, mais que jamais des pays comme le Niger auront un réseau électrique. Financièrement, le réseau, il n'est même pas amortissable. Donc là, forcément, c'est l'énergie localisée. Aux États-Unis, il y a 1 million de maisons autonomes. C'est-à-dire qu'ils ont une petite éolienne, quelques mètres de panneaux solaires et un petit groupe diesel qui n'entraîne ni vent ni électricité. Et puis, comme ils produisent de même leur courant, ils font gaffe, ils économisent, ils font. Donc, vraiment, c'est complémentaire. Et bon, c'est un peu difficile à dire, mais le nucléaire, c'est idéal pour alimenter mieux de vie.
Oui, alors, pour répondre effectivement aux questions sur le carbone, on remarque en Europe, en tout cas, avec la sortie d'Allemagne du nucléaire aujourd'hui, que ça en parle plus, hein, assez curieusement, c'est sorti. Il faut voir, on parlait d'exclusion tout à l'heure, il faut voir que les Allemands reprennent l'exploitation du lignite à fond. Le lignite, c'est le plus dégueulasse de tous les charbons, il n'y a pas d'autre mot, hein. Et les exploitations lignites, qui sont des trucs énormes, ont mené à l'exclusion de 80 000 personnes. On a évacué 80 000 personnes des zones où il y avait du lignite. Hein. Alors on peut parler de Fukushima, etc., d'évacuation et de Tchernobyl, mais là c'est du lignite. Hein. 80 000 personnes, c'est pas rien. Et vous avez vu comme moi qu'il y a des villages qui sont en train de se rebeller. Parce que c'est pareil, on veut les dire, et c'est comme vous pouvez le dire, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Hein. On rase le village complètement, on dit on vous en reconstruira un autre plus tard, et c'est terminé. Et il faut savoir que, avant même Fukushima, de toute façon, il y avait cette exploitation en Allemagne, qui fait qu'ils sont à pratiquement, vous l'avez vu, 10 tonnes de CO2 par habitant quand nous on est à moins de 6. Hein. Sur les 30 centrales thermiques au charbon les plus polluantes en Europe, 10 sont en Allemagne. Hein. Et 10 au lignite. Et je pense que cette proportion-là va augmenter. Donc vous allez voir, demain,
de CO2 ou pas. On pourra refaire nos planches et les aider tous autant qu'on est, parce que ça, ça va réaugmenter. Et du jour au lendemain, on n'en a plus parlé, effectivement, c'est devenu un vrai nom. C'est curieux, hein, mais c'est comme ça, hein, c'est bizarre. Quand vous regardez les scénarios de Greenpeace sur la sortie du nucléaire, ils le disent franchement, ils disent, bah, jusqu'en 2030, c'est le gaz qui prend le... Voilà, on ne fera plus de nucléaire, on fera du gaz. Alors ça, qu'est-ce que ça va donner aussi, hein. Et vous avez vu peut-être dans le journal d'aujourd'hui, l'OCDE a calculé que d'ici 2050, on reste bien dans le thème, les augmentations de CO2 allaient augmenter de 50%. On est loin du fameux facteur 4, hein, hein, augmenter de 50%. Donc, voilà. Bon, voilà, on en a.
Une question pour vous.
Juste. Bon. Moi, je suis déjà un fervent défenseur du nucléaire. En votre présentation, je suis encore plus. Vous avez fait la preuve que le nucléaire est vraiment incontrôlable. Maintenant, ce qui me dérange un petit peu, c'est que on n'a pas assez abordé l'aspect sécurité de manière vraiment objective. Ça m'étonne que certains aient profité de l'occasion pour intervenir par rapport à l'aspect rentabilité dans le nucléaire. Vous nous avez dit tout à l'heure que les 24 heures d'intervention quand il y avait un problème sur un réacteur étaient primordiales. Quand on sait que l'industriel privé TEPCO à Fukushima a attendu avant de refroidir les réacteurs parce qu'il voulait faire de l'argent, et bien là on a un gros problème par rapport au nucléaire. Quand on sait aussi que les préconisations de l'ASN, il y a eu des mesures concernant les travaux sur les centrales, mais il y a aussi des mesures très importantes qui ont été prévues, enfin, qui ont été énoncées concernant la cascade de sous-traitance au niveau d'EDF. On a vu un reportage qui a permis de montrer ça au grand public sur la 5 il y a deux jours. Ça m'étonne un peu que les anti-nucléaires, ceux qui ont peur d'un problème de sécurité, vont aborder ce problème-là. Donc le nucléaire, oui,
c'est
quand même en pleine
vie.
Non, on est tout à fait d'accord là-dessus. Et le problème de la sous-traitance est aussi un vrai problème, on est bien d'accord. Le fameux groupe de travail dont je vous ai parlé, on a posé clairement la question là-dessus. Oui. Donc, vous voyez que le nucléaire produit énormément de kilowattheures. Si vous faites un investissement d'un milliard d'euros, en gros, ça joue peanut sur le prix du kilowattheure en réalité. Hein. Donc même si on avance un amortissement à 10 ans, on est plutôt sur 30 ans, 40 ans aujourd'hui. Donc on peut faire des investissements, je suis d'accord avec vous. On est d'accord aussi sur cette courbe qui a attendu pour rentabiliser. Ça, c'est lamentable. On a dit pas de trop, mais on est bien d'accord là-dessus.
Dans tout votre PowerPoint qui est quand même bien orienté, bien évidemment, plusieurs fois vous avez évoqué les déchets du nucléaire.
Ah, c'est dans les défis, donc vous avez raté une planche là.
Non, pas une planche, on a vu.
Ah ben, je peux vous la montrer, hein. Mais on est suffisamment ici pour savoir. J'ai même dit que ça faisait partie des défis.
D'accord, alors qu'est-ce qu'on a vu si on n'arrive pas à trouver la solution?
On
continue sur les déchets, on continue sur les
rejets.
C'est ça, c'est le mode de coup que vous préparez. C'est-à-dire que, par exemple, cet été, vous allez avoir une sectionnette où EDF va encore demander des autorisations de rejet, on va continuer. C'est bien ce que vous nous retenez.
Oui, non,
mais est-ce que c'est ce monde-là que vous êtes en train de nous préparer? C'est-à-dire qu'on fait de plus en plus de centrales avec des autorisations de rejet supplémentaires.
Vous n'avez pas, à chaque fois aujourd'hui que vous le montez, on n'augmente pas les rejets. Quand vous regardez, quand on
reconstruit... C'est Macron qui vient de demander l'autorisation de rejet supplémentaire.
Qui? Macron? Ça, je ne sais pas comment on
va... Je vais vous permettre de préciser, s'il vous plaît, c'est important ce que vous dites là.
Si on va continuer sur les rejets, oui ou non?
On ne va pas conduire sur les rejets, plus que ce qu'il est nécessaire. Et on est même en train, quand on construit aujourd'hui, en gros, par mégawattheure fournie, on a de moins en moins de rejets en quantité. C'est clair, année après année. Le problème des déchets est un vrai problème. Ça n'est pas seulement le problème des déchets radioactifs. Je suis beaucoup plus inquiet des déchets toxiques, chimiques, sur lesquels personne ne parle et qu'on met n'importe où dans la nature, qu'on déverse partout sur la planète, c'est clair.
Vous parlez des chimiques à Hague?
Non,
il n'y a pas de chimiques
à Hague. Arrêtez. Je connais mieux probablement l'usine chimique de Hague que vous. Non, c'est clair. Là, on est en train de parler de déchets.
C'est parce que c'est une chimie
globale.
C'est parce que c'est une chimie à la Hague.
Ah bon, oui, mais Rousselet, vous dites qui c'est Rousselet?
Oui, je le connais très bien.
Vous demandez, il travaille dans quel organisme? pardon.
Il travaille dans quel organisme en fait?
Celui qui vient vous gratter les pieds de même instant,
Greenpeace. Ah non, non, on s'entend très bien. On s'entend très bien avec Rousselet, il n'y a pas de souci.
Après,
hein.
Je vais répondre à la question du monsieur, parce que vous l'avez pas fait tous les deux. Alors, monsieur, si vous êtes à New York et qu'il y a un accident nucléaire, vous ne serez pas remboursé pour votre maison. Il faudra continuer à payer les loyers parce que le fonds,
c'est
pour les deux, il est de 70 000 livres. Hein, on est d'accord sur ça. Donc, les personnes qui vont subir des contaminations, s'il y avait un accident, elles perdent leur maison, elles perdent comme ça c'est au Japon, et vous le savez tous les deux, c'est que les fonds par l'État n'est pas.
Mais je suis désolé, ça c'est vous. Ça c'est votre interprétation.
Étienne,
c'est votre interprétation.
Juste une précision sur ce que monsieur a dit. Il n'y a pas de demande d'autorisation d'augmenter les rejets à Marcoule. Il y a une procédure, une démarche qui a été présentée aux communes riveraines et c'est une démarche de demande d'autorisation des rejets qui sont à la baisse. Ah, vous avez eu de rejets?
Monsieur, nous, je vais vous dire. L'industrie nucléaire, elle est très réglementée et aujourd'hui, vous avez
oui.
Les
gens
qui sont
sur
un cours de la même. Allez, on a encore deux questions pour la terminer. Alors, la une, c'est là, c'est tout le monde qui en a
énormément. Rien à voir par rapport à l'industrie chimique. Rien à voir par rapport à l'industrie chimique.
Non. On a
alors,
madame,
c'est
madame qui parle,
il faut l'écouter. On est une
deuxième
dame également.
Deuxième dame. Bon, alors, le cinquième dame, parce que je ne voulais pas vous laisser, je pense qu'on a vu en effet sur un tableau marqué décès. Mais ça a été très rapide, ça a été écrit, on n'en a pas parlé. Donc, je pense que le problème du nucléaire, c'est avant tout un problème de sécurité et de décès. On vous avait parlé du lignite, du gaz et de la pollution du charbon. Je suis tout à fait d'accord, mais la pollution du nucléaire. Or, la pollution du nucléaire, c'est une pollution que l'on fait à vie, pour la planète, pour les générations à venir. Il n'y a pas que le déchet, la radioactivité rejetée. Il y a en effet, comme vous avez dit à un moment, quand nous en avons parlé, du déchet qui se trouve dans des bidons, dans des mélanges. Mais non, tout ce déchet, nous l'avons la terre, nous l'avons la planète, et nous ne savons pas le détruire. Alors, je suis pratique pour vous faire, et là, on trouve un autre. Mais il y a premièrement un problème de sécurité qui sont résolus. Et il y a un petit problème de sécurité avec des filles. Ah, ils ont fait trop près de l'eau. Ah, mais après, ça sera ça. Il y a sur des filles qu'on n'a jamais imaginé. Donc, le risque zéro net. C'est ça, vous savez très bien. Mais on est très lassiste à ce niveau-là. On pense toujours que ce sera chez les hommes. Et les autres, on n'a rien à foutre. On pleure un coup quand on regarde la télévision. Et puis, pouf, leur barrage, comme on dit, pour le remboursement. C'est les hommes, c'est pas nous. Or, c'est des hommes.
C'est pas pour nous qu'on y travaille dedans.
Ouais, et maintenant, vous y travaillez dedans. Vous avez le droit d'y travailler dedans. Vous défendez votre travail. Mais quand c'est à l'humanité, quand c'est à la planète. Bien sûr, vous avez un problème dans votre famille. Je voudrais qu'actuellement, on se pose toujours plus de situation, mais il faut trouver le problème de résoudre
alors, je ne vais pas répondre vraiment à votre question, mais j'ai une autre conférence qui poserait là-dessus, mais moi c'est mon métier, ça fait 30 ans que je suis expert sur les déchets nucléaires, et je suis sûrement pas d'accord même avec M. Faust qui a dit que le problème n'était pas résolu, mais je ne vais pas lancer le débat.
Je voudrais
refaire une conférence un jour qui traitera chez les nucléaires, on terminera là-bas.
J'avais dit que c'est vraiment dommage. Donc je vais simplement pour réagir à ce que j'ai entendu. Quand j'ai entendu le dire qu'avec une image, on veut dire aux morts. Cela me surprend beaucoup parce que quels hommes et quelles femmes et enfants, dans quelle situation sont-ils actuellement? Des jeunes filles de 12-13 ans ont été interviewées, je les ai entendues. Ayant peur pour leur avenir, pour l'enfant qu'elles porteront peut-être. D'autre part, les familles ne peuvent plus cultiver leur terre, sont obligées de quitter leur zone. Zéro mot, ah bon? Première question. L'autre chose que j'ai entendu, j'entends que le Japon est très développé. Ça veut dire quoi, être très développé? Je pose la question à l'ensemble.
sur la chaîne du nucléaire, au tout début, il faut aller chercher de l'uranium, donc nous ne sommes pas indépendants. C'est intéressant d'interroger les Africains nigériens qui travaillent dans les mines pour voir dans quelle situation leurs conditions de travail. À la fin de la chaîne, il y a le problème des déchets que nous avons soulevé. Et aussi la question du transport des déchets dans les wagons. Régulièrement, vous avez des transports et des wagons qui s'en vont à La Hague, avec par exemple l'arrêt, parce qu'il y a une panne de train à la gare de Valence qui s'est produite il n'y a pas si longtemps que ça. J'aurais autre chose à dire. Je relisais à Rountaviev il y a quelques jours qui parlait de toute cette vallée du Rhône qui est une zone d'effondrement et non pas d'érosion et qui n'est donc pas à l'abri du tout d'un événement sismique, d'un tremblement. Alors maintenant je vous pose ma question. Ma question c'est la question éthique. En fait, avec la question de l'énergie, est-ce qu'on ne joue pas à l'apprenti sorcier? Donc la question de fond, c'est quelles limites nous nous donnons pour sauver l'humain et sauver la planète qui est finie? Parce que la question, elle est là. C'est quelles limites nous nous donnons? Et je ne suis pas sûre, ces messieurs que j'ai entendus, qui sont de bonne foi, qui feront tout pour assurer la sécurité, qui soulèvent bien la question des économies d'énergie que nous avons à faire, je continue à dire que je ne suis pas sûre que la question des limites donc de l'éthique soit effectivement posée.
Je vais la parole de conclusion maintenant à Jacques et Yves, et puis nous terminerons là-dessus. Simplement, donc, effectivement, aujourd'hui, il y a à Fukushima une zéro mort par irradiation et contamination, c'est clair. Il y a eu 26 000 morts liés au tsunami et au tremblement de terre. C'est malheureusement tout ce que c'est, mais l'accident de Fukushima, c'est zéro mort pour l'instant. Deuxièmement, quand vous parliez des transports par voie ferrée, moi je vais peut-être vous choquer, mais franchement, je trouve que ça se passe bien, alors que ces transports, je ne sais pas comment on arrive à les réaliser, alors que vous avez des antinucléaires qui s'accrochent, qui s'enchaînent dans les rangs, qui vont aller rechercher, etc. On arrive quand même à monopoliser assez de choses pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Et bien franchement, moi je trouve que ça se passe plutôt bien au contraire. Avec gens, on peut se demander pourquoi ça se passe comme ça, mais peut-être aussi un autre débat. Votre problème sur l'éthique, bon, je pense que vous posez une question qui est plus générale, qui touche d'ailleurs toutes les sources d'énergie. On a vu qu'il n'y en avait aucune qui était sans décès, sans implication, etc. sur ce plan-là. Voilà, c'est comme ça, c'est malheureux à dire. À partir de là, il faut savoir effectivement ce qu'il y a qu'à limite, mais c'est vrai pour n'importe quelle source d'énergie, et pas seulement celle-là. Voilà, je vous remercie pour votre applaudissement.